Il y a fiesta à la grande cabane, les gars. On célèbre les 30 piges de bons et loyaux services du jeu. Nous sommes tous réunis dans la salle des conférences, au grand complet et en grand complet. Le boss a mis un costard noir, une cravate noire et sa rosette sur canapé des jours de gloire. Il est ému because monsieur le ministre est en train de lui refiler un de ses coups de brosse à faire reluire l'honneur qui n'est pas dans une musette.
Monsieur le directeur, vous fûtes avec une conscience exemplaire de toute votre intelligence et en déployant une énergie farouche, la main de fer au cœur généreux qui a su insuffler un sang neuf dans l'esprit de ses services, lesquels assument avec une constance digne d'éloge la pérennité de la République, la sécurité du pays, la stabilité de la natation, je veux dire de la nation, et qui donne à chaque Français la garantie de...
Le ministre jette un coup d'œil au discours préparé par le petit neveu du secrétaire adjoint du sous-chef de bureau et reprend.
Pendant 30 ans, avec un dévouement exemplaire, vous vous consacrâtes au bien public. Vous fîtes de votre vite, de votre vie, plus qu'un emblème, un drapeau. Vous renouâtes avec les vieilles traditions françaises qui furent jadis la panade, l'apanage de notre race.
C'est fou ce qui cause bien. On a beau dire, mais l'instruction, c'est quelque chose.
D'un coup de tatane dans les échasses, elle oblige à fermer le robinet de son réservoir à conneries à Gravaux.
Si la police française est l'une des premières du monde, c'est dans une large mesure à vous qu'elle le doit. En ces temps troublés, monsieur le directeur, la présence d'un homme tel que vous à la tête de con... à la tête de compagnons valeureux, comme ceux qui m'écoutent en ce moment, est une garce... est un gage de vitalité que ces 30 années de bons et aloyaux et loyaux services soient suivis de beaucoup d'autres, monsieur le directeur. C'est sur ce vœu qu'on se doit de conclure. Vive la police, vive la République, vive la framboise. Vive la France.
Le moment des cadeaux est maintenant arrivé. Le ministre fait tout d'abord le sien, ce qui est normal. Il offre au vieux la récompense suprême. Une photographie du général dédicacée par le jardinier de sa maison de campagne. C'est ensuite la maison Poulaga qui s'étant cotisée a acheté à son big boss un stylo en or massif avec remplissage thermonucléaire, plume occulte, corde balai incorporée et formule de politesse à répétition. Le tondu en larmoie sur les revers de son costard. C'est alors que Sa Majesté Beru Ier, roi des Ignares et président à vue des 10 minutes du bulbe, se dégage de la masse, violet d'émotion. Il coltine un paxon format cantine militaire enveloppé dans du papier journal et ficelé avec de la corde qui devrait servir à amarrer les péniches.
Patron, si vous voudrez me permettre, j'ai quelque chose à vous causer, à vous offrir moi aussi.
Le Gravaux passe sa gourmande sur ses lèvres à pneus ballons.
Si que je me permets ceci et cela, patron... Ces rapports que j'ai été promulgué inspecteur principal à la suite d'à propos de votre intervention personnelle et efficace. Alors, je ne suis pas un oratoire et m'explique mieux avec mes poings qu'avec ma langue. Laissez-moi vous causer pourtant de ma reconnaissance. Faut qu'on vous dise aussi combien c'est qu'on apprécie votre haute direction. Vous n'êtes pas un marrant. Vous n'êtes pas toujours le gant de velours autour de la main de fer. Quand il y a du mou dans la corde à nœuds, faut se sauver de devant, biscotte, il y a de l'orage dans votre bureau. Mais pourtant, on vous aime bien, tous autant qu'on est ici. Pas vrai, les potes?
Le gros remet alors son présent au directeur.
Oh, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais dans la vie, c'est comme en l'amour. Chacun fait selon ses moyens.
Le vieux, dans un élan sublime, donne l'accolade à Beru.
Oh, monsieur le directeur.
Il se jette sur la poitrine du vioc, qui du coup commence à se sentir gêné aux entournures.
Ah, mais je le savais bien que vous étiez pas une peau de vache.
Le valeureux se mouche dans la cravate fat du boss. Je vole au secours de ce dernier en faisant lâcher prise à Beru. C'est sur mon épaule que le maus continue à se vider. Mais t'as vu qu'il s'est rempli le réservoir pour se donner du courage. C'est le muscadet du coin qui lui dégouline sur les bajoux. Quelques claques dans le dossard le remettent au pli. Pendant ce temps, le vioc a défait le cadeau. Il en extrait un hibou empaillé, passablement bouffé au mythe et auquel il manque un œil de verre. Le ministre en rigole dans son portefeuille. Le vioc, Il sait plus s'il s'agit d'une mauvaise blague ou d'une naïveté.
Et j'espère qu'il vous plaira. J'ai pensé que ça ferait bien dans votre bureau. Ça veut dire que la police veille, comprenez-vous. En quelque sorte, c'est une sorte d'espèce de symbole, quoi.
Le DAP comprend. Il remercie et prononce son allocution. C'est beau, tricolore, humide et émouvant. Le ministre fait des promesses. On trinque. Champagne comme s'il en pleuvait. Le gros se finit allègrement. C'est son jour de gloire à lui aussi. Posé sur un meuble, son hibou borgne surveille l'assistance d'un œil social.
Mon cher San Antonio, j'ai deux petits mots à vous dire.
Je me retourne, c'est le DAB. Il tient sa coupe de champ à la main.
J'ai une mission d'un genre très particulier à vous confier.
Vous m'envoyez ravi.
Elle est si particulière en fait que j'hésite à vous demander cela.
Vous mettez l'eau à la bouche. Il a un sourire qui fait miroiter ses tabourets en gold.
Que vous entendre.
Le voilà qui glisse sa main dans sa poche et qui s'empare d'une photographie. Il me tend l'image. Ça représente une dame d'une 40-50aine d'années, encore pas mal. Elle est blonde avec des yeux bleus et une bouche sensuelle. Je connais pas. De qui s'agit-il?
Le nom et l'adresse sont au dos.
Je retourne la photo. Monica Michael, la sapinière, Moisson, Seine-et-Oise. Et en quoi ça consiste la mission, patron?
Vous connaissez Ruy Blas?
La pièce de Victor Hugo?
Oui.
Ah, bien entendu, pourquoi?
Vous la connaissez bien?
Presque par cœur.
Savez-vous comment se termine l'acte premier?
Oui, parfaitement. La reine d'Espagne paraît, tous les grands d'Espagne se courent, et lui, Ruy Blas, il murmure à Don Salluste. Et que m'ordonnez-vous, seigneur, présentement?
Que répond Don Salluste?
Eh bien, lui, il répond de plaire à cette femme et d'être son amant.
Eh bien, supposez que vous soyez Ruy Blas, que je sois Don Salluste, et que cette femme soit la reine d'Espagne.
Il tapote ta photographie. Vous me demandez de devenir l'amant de cette personne.
Voilà.
Et je peux vous demander dans quel but?
N'est pas encore le moment, San Antonio. Essayez de forcer l'intimité de cette personne, et si vous y parvenez, venez me le dire. À ce moment-là, je vous expliquerai.
Forcer l'intimité de cette personne? Dites, patron, je suis d'accord que cette mission est d'un genre extrêmement particulier. En tout cas, elle manque pas d'agrément.
Vous trouvez?
Je mate une nouvelle fois la photo. Elle est pas si malade, la dame. Elle a le regard qui promet, la bouche qui doit tenir.
Il y a un petit détail que j'ai omis de vous indiquer.
Et lequel, patron?
Cette photographie date de 10 ans.
Il reprend son verre et s'éloigne sans me regarder. Moisson, au nom si bucolique, apostolique et romain, est situé dans une boucle de la Seine entre Mantes et Vernon. Je stoppe ma jacque devant une auberge rustique et j'entre pour épluser un gorgeon. Une grosse fille bouffie en caustique les chaises en chantant une chanson de Mademoiselle Hardy avec la voix de Laurel. Elle est appétissante, cette nana. Peut-être parce qu'elle ressemble à un pâté de foie. Je commande une bière et m'assieds près de la fenêtre. Vous avez des chambres?
C'est pour le prochain week-end?
Non, c'est pour tout de suite. Ça va foudroit.
Vous êtes représentant?
Exactement. Je représente une certaine classe de la société, mon petit.
Je vais en causer à la patronne.
Ben oui. Elle s'éclipse et revient au bout d'un moment flanquée d'une madame à peine plus grosse qu'une vache sur le point de vêler. L'arrivante m'examine de la tête aux pieds avant de m'adresser la parole.
Vous voulez une chambre?
Oui, madame.
Avec pension?
Avec pension, eau chaude et froide et semi-arsort.
Vous êtes seule?
Je le suis, madame. Ça la lui coupe. Elle regarde sa servante, me regarde, renifle, fait semblant de penser et se remet le sein gauche sur le ventre. Je suis écrivain, madame. J'ai besoin de calme pour rédiger mon prochain roman. Et on m'a vanté la tranquillité et la bonne tenue de votre établissement. C'est pourquoi il me serait de quelque agrément de m'y installer.
Je peux vous loger.
J'en attendais pas moins de votre générosité, madame.
Alors, comme ça, vous écrivez des livres?
Mais comme ça. Et à la plume, oui, madame.
Comment c'est votre nom?
San Antonio. Mais je signe mes livres François Mauriac. Je
connais pas. Je n'en passais jamais en feuilleton dans le petit écho de la mode.
Ah si, mais sous un autre pseudonyme. Cela, je les signe Victor Hugo.
Bon, je vais voir ça.
Ben oui.
Vous me mettrez dans votre prochain roman?
Oh, ben je vais faire se serrer mes autres personnages afin qu'ils vous laissent une petite place.
Maryse, tu donneras une autre bière à Monsieur Hugo, sur le compte de la maison.
Faites donc ça. Une petite heure plus tard, ayant achevé mon installation dans cet établissement de qualité, je me mets à musarder dans le pays à la recherche de la sapinière. Je songe au mystère entourant ma peu banale mission. Curieux que Lovioc n'ait pas voulu m'affranchir. J'ai le nom et l'adresse de la dame. Un point, c'est tout. Je dois devenir son jumeau sans savoir pourquoi. À force de chercher la sapinière, je finis par la découvrir dans un bois de pins. C'est la crèche, style maison et jardin. Sur la vaste terrasse pavée, j'aperçois des chaises longues provisoirement vides. Je continue mon petit bonhomme de chemin, les mains au vague et le vague à l'âme. Maintenant, deux dames occupent les chaises longues. Je leur décoche mon regard de repérage des grandes occasions. L'une des deux est jeune, blonde, bien roulée. Autant que l'éloignement me permette d'en juger. L'autre est vioque, rousse et fripée. Je frissonne en songeant que c'est celle-là la reine d'Espagne. Une déesse noire est stoppée en bordure de la propriété. Au moment où je passe, la dame d'un âge certain dit à l'autre.
Ça ne t'ennuiera pas tout à l'heure de me conduire jusqu'à Mantes, chérie.
Imperturbable, je poursuis ma route jusqu'au village. J'avise une quincaillerie et j'y entre. Un vieux monsieur à lunettes bleues et à moustache blanche nicotinisée me demande ce que je veux. Vous avez du fil de fer barbelé ?
Bien sûr. Il veut du gros ou du petit ?
Du très gros. Il va chercher un rouleau sous un hangar et revient en le tenant éloigné de sa personne.
Quel métrage ?
Mettez-moi 30 cm. Il en laisse tomber son mégot.
C'est une plaisanterie.
Du tout. Il m'en faut que 30 cm. Le marchand de gonds n'en croit pas ses étagères à cigarettes.
Mais on détaille pas.
Bon, alors quelle est la plus petite quantité que vous puissiez me vendre ?
20 mètres.
Ok, j'achète un rouleau de 20 mètres. Je lui paie, puis avec une aimable mais démentielle obstination... Pouvez-vous m'en couper 30 cm ?
Bien.
Il obéit. Je chope mon petit morcif de barbelé. Vous offrirez le reste aux rosières de la commune afin de protéger leur vertu. Une fois encore, je redrague près de la sapinière. Tout en marchant, j'ai roulé mon petit bout de barbelé de manière à constituer une couronne ayant une dizaine de centimètres de diamètre. La déesse noire est toujours stationnée devant la grille. Je jette mon barbelé sur le sol, ce sans me baisser. J'ai plus qu'à le glisser sous le pneu de la pointe du soulier. Ce travail accompli, je regagne le patelin. Je m'installe à la terrasse de mon auberge et je dis à la petite Maryse de me servir un double whisky avec un cube de glace. Et j'attends. Au bout d'un moment, la déesse se pointe, les deux dames à son bord. Je me lève d'un bond et je saute dans ma tire pour les suivre sur la route de Mantes. Je bombe sérieusement et à 2 km, 627 mètres et 92 cm de Rolvoise, qu'aperçois-je au bord du chemin la déesse noire. Elle est sur le bas-côté et mes deux donzelles regardent le pneu à plat avec une grande affliction. La jeune tient un cric à la main et manifestement ne sait pas si on doit le placer debout, à l'envers, de profil, sous la pédale de débrayage ou dans la boîte à gants. Elle a des beaux yeux veloutés, dans les vernils, une bouche extrêmement charnue, faite pour dire oui, et pour en supporter les conséquences. La vioque, par contre, est plus vioque encore que je l'imaginais. Autour de ses yeux, les rides se marchent sur les pieds. Elle a les bajoues un peu flasques, les lèvres molles, et si elle était trop jeune pour servir en qualité de cantinière pendant la guerre de 70, du moins, elle était trop vieille pour le faire à celle de 14-18.
Des ennuis, mesdames ?
Le regard de reconnaissance que me propulse la fille au cri ferait déraper un rouleau compresseur.
Nous sommes à plat.
Un instant. Je reviens vif comme le papillon du matin vers les naufragés. Donnez-moi cela. En deux coups de cuillère à peau, j'irai pas le désastre. Monica Michael, la plus vioque, a son rouge labial qui ressemble à une glace framboise qui s'est attardée au soleil. Quand je pense que le dame m'a donné l'ordre de me farcir cette relique, j'en ai des frissons dans les endosses.
Nous ne savons comment vous remercier.
En m'attendant la petite blonde, je sais comment elle pourrait me remercier. Mais en considérant la vioque, je sais aussi. Elle, ça sera en me refilant 20 balles. Je vous en prie, trop heureux d'avoir pu vous rendre service. Seulement, vous n'avez plus de route de secours, vous allez loin ?
À Moisson.
Je me paye un émerveillement de l'hémisphère nord. Pas possible, moi aussi. Voilà ce que nous allons faire. Vous roulez et je vous suis. Cette manière, si par hasard vous creviez de nouveau, je pourrais toujours aller faire réparer votre roue. L'entretien est clos. La déesse repart, je lui file le train jusqu'à leur carré grand standing. Le moment délicat est arrivé, je descends de ma charrette. Si vous voulez me permettre, je vais porter votre roue crevée chez le garagiste du pays. Tant d'amabilité les émeut, elles acceptent.
Je passerai la prendre.
La plus jeune me tend une main douce comme la peau d'un chèque approvisionné. Je m'incline, puis je prends la paluche fanée de la daronne. En la saluant, je lui court-circuite tout ce que je peux comme désir effréné. Elle reçoit le message et je vois un regard qui fait tilt. C'est pas tous les jours qu'un beau gosse en parfait état de marche demande la communication avec son standard. Le dernier, ça doit dater de l'année où Antonin Magne a gagné son premier Tour de France. Je cramponne leur roue à plat et je la roule dans ma tire. Un dernier regard fripon à la vioque et je décale. Le Le garagiste est occupé à réparer un tracteur lorsque je m'annonce dans son gourbi. Il a un masque de beauté en cambouis de la bonne année. Et il est en train de traiter un écrou de nom inexprimable, sous prétexte qu'il lui a glissé des doigts.
Ouais, qu'est-ce que c'est ?
Vous l'avez remarqué, je pense, rien ne met plus en colère un garagiste que de voir arriver un client. Celui d'ici écoute ma requête en réprimant une terrible envie de me gifler.
Ouais, bon, bah laissez cette roue ici et puis je la ferai à l'occasion, hein.
Quand ? Il réfléchit, tourne la tête vers un calendrier à réclame accroché à son mur et se perd dans des calculs vertigineux.
Voyons, bon, nous sommes en mai, juin, juillet, août, c'est la saison, septembre, je pars en vacances, octobre, c'est la chasse, on va compter dans le milieu de l'hiver.
Bon, ben, je vais réfléchir. Je bombe jusqu'à Mantes, et là, je trouve un garagiste stupéfiant qui, pour une petite prime d'encouragement de 10 francs, consent à abandonner un graissage pour réparer la chambre à air. Une plombe plus tard, me voici devant la sapinière. Je sonne. C'est Mme Monica Michael en personne qui vient m'ouvrir. Elle me flanque à bout portant son sourire en or massif.
Comment ? Vous avez la gentillesse de...
Elle est couverte de confusion de la tête aux pieds. Elle me fait entrer dans sa carrée, ce dont je rêve depuis déjà quelques heures. La blonde est encore ici qui joue avec un chat bleu. Ces dames m'offrent un whisky. L'heure des présentations est enfin arrivée. Monica Michael m'apprend qu'elle s'appelle Monica Michael. Son amie se nomme Virginie Baum. Elle est docteur en médecine. Moi, naturellement, je leur raconte un tas de bobards à mon sujet. Je leur bonis que je suis romancier. Je m'appelle Paul Kenny et j'écris des romans d'espionnage à fort tirage. Je suis venu à Moisson pour préparer le prochain, car j'ai besoin de m'isoler. Ça les intéresse. Au bout d'un moment, Virginie déclare qu'il est temps pour elle de regagner Paris. J'annonce que je vais prendre congé et tout. Monica Michael m'assure que j'ai bien le temps. Et elle fait la bibise à Virginie. Je pense au vieux, s'il pouvait me voir. Ça fait 4 ou 5 plombes que j'ai débarqué à Moisson et me voici déjà seul avec la dame à traiter. Monica revient, un sourire équivoque sur ses lèvres craquelées.
Vous reprendrez bien un autre verre.
Je ne sais si... On parle de la pluie et du beau temps. Depuis le départ de la jeune blonde, l'atmosphère s'est tendue comme la main d'un mendiant à la sortie de la grand-messe. Puisque vous êtes seul, pourquoi vous ne viendriez pas dîner avec moi à l'auberge, hein?
C'est proposé si gentiment.
Nous voilà donc partis. Je préfère l'embarquer à l'auberge du village plutôt qu'à l'Élysée Club. Croyez-moi. Tout en tortorant une blanquette à l'ancienne, Monica me fait son œil de plante number one. Je sens ses nougats sous la table, frôleurs qui sont. Voraces, envahissants, implacables. Je ne sais plus où me mettre ni comment me tenir. La frôleuse fait sa petite bouche. On dirait qu'elle va libérer un œuf. Mais non, il n'en sort que des mots. Elle m'explique sa solitude, m'en raconte sa vie, ses rêves éculés. Vous en êtes un autre. Elle était mariée à un biologiste dont les recherches étaient promises à un grand retentissement. Seulement, c'est dans son laboratoire qu'il y a eu un grand retentissement puisqu'une explosion s'est produite et qu'il a été si fortement éprouvé par une éprouvette qu'il en est mort, le pauvre. Je m'enhardis à lui caresser la paluche par-dessus la table. J'ignore si elle ne virgule des vannes, mais en tout cas, ce léger contact lui fait de l'effet. Du regard, elle en redemande. Moi, si je mets pas une armure ou si je me prends pas la sage précaution de me faire souder les bas morceaux, je suis bon pour passer à la casserole. Drôle de situation, non? Je suis ici pour ça, et pourtant la réussite de mon boulot me donne envie de démissionner. Ah, la nature humaine, c'est quelqu'un. Le dîner expédié, je la raccompagne à la sapinière. Mais t'as vu que c'est maintenant que mon destin va s'accomplir. Je vois d'ici le programme. Champagne frappé, musique douce pour la chose du vertige, rapprochement sur le canapé et main baladeuse. Nous entrons. La Vioque va mettre la téloche. Pareil qu'il y a une émission fantastique sur les collectionneurs. À pas rater. Je pose ma dextre sur sa sinistre épaule. Elle frémit, moi aussi. Elle, c'est le plaisir, moi c'est l'horreur. Je pense fortement à Brigitte Bardot, Michel Morgan, Sophia Loren. Et en fermant les yeux, je risque une galoche bulgare. Ça la flatte, Monica. Mais elle se dérobe.
Encore un fou. Comme vous êtes pressé, vous brûlez les étapes.
Je me dis que je la brûlerai bien, elle aussi, par la même occasion. Je l'arroserai volontiers d'essence. Et comme je lésine pas, je lui paierai même du super et j'allumerai avec un Dupont. Mais le devoir avant tout. Je renouvelle ma tentative. Elle se laisse embrasser, puis fermement, d'une voix plus rauque que celle de Marlène, elle supplie.
Maintenant, maintenant va-t'en, mon grand fou. Tu me plais trop. Je serai capable de te céder.
Pourquoi remettre ça à plus tard?
Laisse-moi me préparer à cette idée. C'est tellement nouveau, tellement soudain. Reviens demain soir. Je t'aime déjà.
Et voilà le travail. Tout est dans la technique. Je fais un baisement style Jockey Club à Monica et je prends congé. De retour à l'hôtel, je me hâte d'appeler le DAP pour le mettre au courant de ma victoire. Mission accomplie, patron. J'avance un peu sur l'horaire, mais j'ai trop besoin de lui en cloquer plein les carreaux tendus. Il reste 4 secondes sans voix. Je m'apprête à répéter, pensant qu'il a les Portugais ensablés, lorsqu'il pousse une légère exclamation.
Pas possible.
Ça paraît vous étonner, patron.
Voulez-vous dire que vous êtes devenu l'amant de la dame?
Ah, et comment? Je peux même vous assurer que les choses ont été rudement menées.
C'est ce que je vois. Eh bien, bravo, tous mes compliments.
Vous m'aviez annoncé que l'objet de ma mission me serait communiqué à ce moment-là, patron. Alors, je vous écoute.
Il n'y a plus de mission, vous pouvez rentrer.
Ah, du coup, j'en ai le grand zygomatique qui s'enroule après la horte. Comment ça, patron?
C'est ainsi. Je vous remercie, San Antonio, et j'espère que ça n'a pas été trop pénible. Bonne nuit.
Et me voilà en tête-à-tête, enfin, ou plutôt en joue-à-joue avec le combiné. À quoi tout cela rime-t-il? Un très léger remords me taraude. J'ai affirmé au Vioque que j'étais devenu l'amant de Monica. Mais si on prend les choses à la lettre, au cours de cet instant de folie vécu à la sapinière, j'ai pas accompli la totalité de mon travail. Toujours un peu crâneur, quoi. J'en ai remis. Histoire d'épater le tendu. Je raccroche en pleine crise de conscience professionnelle. Je gagne ma chambre et j'intime l'ordre à mon petit lutin de la boucler pour m'abandonner au bras de Morphée. Le lendemain, je me présente chez le Dabuche pour une mise au point. Mais le tendu est à l'enterrement de la grand-tante du ministre des Contraventions pour stationnement unilatéral non observé. Je trouve une note du boss sur mon burlingue. Prière, partir d'urgence pour me représenter au Congrès international de police à Gotab, Groenland. Invitation et billets d'avion 6 juin, cordialement. Un peu laconique, mais péremptoire. Je me dis qu'un petit voyage me changera les idées et je rentre à la maison histoire d'y prendre un pull au vert, vu que le Groenland n'est pas encore climatisé. Voyage sans incident. Gotthard est une coquette cité de 92 habitants, célèbre par son stade pouvant contenir 112 000 spectateurs. Le congrès de la police a lieu au Palais de Glace. Il est placé sous la haute présidence d'Eudebert Gervais, le chef de la délégation esquimaude, célèbre pour avoir commis ce livre à grand retentissement, Le Zéro Absolu et l'Infini. Les 15 jours de délibération placés sous l'impulsion d'un tel homme se déroulent sans problème, et le bilan de nos travaux s'avérant positif, c'est d'un cœur léger que je rentre à Paris. Après mon rapport au DAB, je fonce vers le troquet du coin. C'est bon de rentrer au bercail, de retrouver Pantruche, la muscadet, les amis. De mon petit bistrot me plaît l'ardoise fine. Beru s'y trouve, qui pérore doctement. Il raconte sa toute dernière enquête.
Voilà cette brave dame qui entre dans la chiotte d'auscultation du docteur. Je touche, qu'elle lui dit. Déloquez-vous qui lui rétrocède. Bon, la vieux se défringue comme si qu'elle serait à l'hôtel du pou nerveux avec un gigolpince. Le toubib l'a fait étaler sur sa canapèche, enfin je veux dire sur son canapé. Il lui cloque une serviette sur le dossard. Comptez qu'il lui ordonne. Et bien la cliente qui se met à compter avec la tronche du doc sur ses beaux omoplates. À 12 500, elle s'arrête complètement épuisée. Ça ira-t-il comme ça, docteur, qu'elle demande? Mais le médecin répond rien. Il était connu.
C'est ta dernière histoire marseillaise, gros.
Tiens, voilà le plus beau.
On fait un malaxage général de cartilage. Après, le bonhomme reprend le cours interrompu de son récit.
Ce que je connais est textuel, hein. C'est l'affaire sur laquelle m'a collé le vieux.
Et de quoi il est clapsé, ton toubib?
C'est le gugus qu'a lâché. Comme quoi, ce sont des choses qui arrivent même sous toubib. Moi, je trouve que c'est rigolo. Il y en a qui clabotent comme leurs clients, c'est toujours des malades qui cannent. Pourquoi que ça serait pas des médecins, histoire de faire la relève?
Sur cette vigoureuse déclaration, le gros écluse un solide gorgeon, puis affable, il me questionne.
Alors, c'est beau le Groenland, ça là?
Féerique, ma grosse pomme.
J'ai toujours rêvé d'y aller. Moi, les palmiers, les plages de sable fin, la mer couleur d'hémorroïdes, ça me cloque du vague à l'âme.
Il considère le cadran solaire de sa montre et se lève.
Mande pardon, les gars, mais faut que j'aille au Grey Room du Père Lachaise.
Comment ça?
Le toubib que je te cause, on l'a assidu dans une heure.
Puisque la mort est naturelle, pourquoi t'assistes aux funérailles, gros?
Mais c'est pas pour le toubib. Lui, j'en ai plus rien à foutre, mais c'est rapport à sa mousmée. Cette souris est dans un je ne sais quoi qui vous taquine l'idéal.
Et t'estimes que le Columbarium, c'est un endroit choisi pour aller avec la veuve d'un gars qu'on passe au barbecue?
Légère, ça là. Il n'y a pas plus bizarre que leur comportement. Pour rien te cacher, j'ai un certain ticket avec la dame que je te cause. Et Colomba ou pas, je vais aller faire miroiter mes charmeuses. Elle sera sensible que moi, flic chargé de l'enquête, j'aille voir insinuer son mari. C'est délicat, non? Et des fois qu'elle tomberait en digue-digue, vu la cruauté du moment, il y aurait le bras d'acier de l'homme délicat pour la soutenir.
Ayant dit, le cher homme quitte l'établissement. J'y vais aussi.
À cause? Je ne les connais pas.
Bah justement, je voudrais voir à quoi ressemble cette belle veuve qui t'a si fortement troublé.
Une merveille. Sa maman savait drôlement habiller des squelettes, crois-moi. Et puis c'est quelque chose côté intelligence. Elle est médecine, elle aussi. Dommage qu'elle ne soit pas spécifiée dans les voies urinaires. J'eusse été ce client.
Pourquoi, gros? T'as des ennuis de vessie?
Non, mais ça doit pas être déprimant du tout de se faire bricoler la prostate par ses mains de fée.
Tu manques de décence, gros. Nous partons pour le cimetière. En cette délicate journée de mai, le ciel de Paris ressemble à un ciel florentin. Il y a de la légèreté partout. Le gros, qui sait être poète à 16 heures, m'en fait la remarque.
C'est pas un temps à se faire crémer, hein?
Non, si on aime la chaleur, vaut mieux aller à Antibes. Nous rangeons la chignole en bordure du Père-Lachaise et nous remontons l'allée qui conduit au Columbarium.
Ah, c'est peinard ici. Tu vas peut-être dire que je suis morbide, mais les cimetières, ben, ça m'a toujours plu. Il y a des fleurs, c'est tranquille. Et puis, toutes ces veuves qui viennent faire du jardinage, ça me porte à la peau.
Nous voici devant le funèbre bâtiment. Des gens recueillis attendent. Radine le corbillard automobile. Les garçons de piste de la maison Borgnole déballent le défunt tandis que ses proches quittent leur siège. Le gros me refile un coup de coude dans les côtelettes.
Mort la cam, gars.
Que je vois de la veuve ne pousserait pas un hippocampe à la débauche.
La matée, c'est con, gars.
La dame possède effectivement des jambes admirables.
La taille dit la taille, hein. Elle achète pas ses corsets chez le tonnelier, hein.
J'opine, c'est vrai, la taille est fine sous le manteau noir bien ajusté.
Une valseur, gars, t'as mordu une valseur.
Ah, pas encore, mais il me paraît comme estime.
Eh ben moi, je passerai bien mes vacances avec.
Nous voici dans l'édifice. On se range en demi-cercle et là, j'ai une grosse commotion, les gars. La dame au bras de laquelle se cramponne la charmante veuve n'est autre que Monica Michael, ma conquête de moisson. Incroyable. Je chope le gigot du gros. Au fait, Beru, comment s'appelle-t-il, Tantoubib?
Alexandre Baum, pourquoi?
Pour rien. Beru y a un mouvement de surprise en voyant filer, mais sa veuve accapare tout son intérêt. Et il joue des coudes pour se hisser à son niveau. La veuve, il s'agit de Virginie Baum, la blonde amie de Monica. Me catapulte dans les coulisses du Columbarium. Un gardien veut me retenir. Je lui fais lâcher prise d'un revers de coude. Je m'annonce vers l'incinérateur au moment où les spécialistes s'apprêtent à enfourner le défunt.
Arrêtez! Je vous demande pardon?
Police, n'incinérez pas le corps. Un supplément d'enquête vient d'être décidé.
Vous avez un papier?
Il vous parviendra d'ici une heure.
Qu'est-ce qu'on va dire à la famille?
La famille assiste pas à la combustion, hein?
Non.
Bon. Alors vous dites rien. Lorsque le temps normal d'incinération sera écoulé, vous procéderez comme d'habitude. C'est-à-dire que vous remettrez l'urne qui est censée contenir les cendres.
C'est pas très régulier.
Bon, ben, ça le deviendra.
Mais qu'est-ce qu'on fait du client?
Il n'y a pas que des cuisinières à gaz dans votre cuisine, hein. Et aussi des frigos, je suppose.
Oui.
Bon, et ben alors vous le mettez au frais, et après la cérémonie bidon, je vous donnerai d'autres instructions.
Hein?
Oh, pfft, gros. Ta majesté qui déambulait dans une allée bordée de couronnes de perles s'arrête. Il regarde autour de lui et me découvre, embusqué derrière un mausolée à grand spectacle habité par un richissime aficionado du Châtelet. Sévère, la bouche lipue, l'œil en goutte d'huile et le front plissé comme un Kodak à soufflet, il s'avance sur moi en faisant gémir le gravier.
Peux-tu me dire quoi est-ce que signifie ton altitude, gars? Tu t'es taillé comme un malpropre au moment où je coulais la cérémonie commençait. J'ai cru que c'était hors d'intestinade, mais te voyant pas revenir, je m'ai inquiété.
Je la tire à l'écart. La veuve et Monica ressortent du Columbarium, le gros a un frémissement.
Faut que j'allasse présenter mes condoléances.
Moule-moi avec tes mondanités. Il s'agit bien d'aller faire des ronds de jambes.
Excuse-moi.
T'es certain que le décès du Toubib était naturel?
Oh, cette connerie, on a fait l'autopsie. C'est pas moi qui ai décidé ça tout seul, mais le légiste.
Bah, comment se fait-il que le vieux t'ait chargé d'une besogne qui relève du commissariat du quartier? Il se gratte le lobe, et ayant terminé cette opération, s'arrache un poil du nez.
Je vais lui demander, il me l'a pas dit.
Ça t'a pas surpris?
Ouais, s'il fallait se poser des questions chaque fois que le tendu nous fout au labeur.
T'as interrogé la personne qu'il était en train de sculpter quand il est mort?
Non. Je pense que c'eût été utile.
Quand on est chargé de mener une enquête, gros, interroger le principal témoin, c'est utile.
Et puisqu'il est mort de sa bonne mort?
Au moment où le vieux t'a mis sur l'affaire, t'en savais encore rien?
Mais l'assistant du docteur m'a expliqué. Puis il y avait un de ses confrères sur place qui déjà déclarait que c'était un arrêt du cœur. Je m'ai contenté de réclamer une autopsie. Après tout, c'était le principal, non ?
Yes, gros, mais c'était pas tout. Tu as, séance tenante, retrouvé la cliente qui a compté jusqu'à 12 500 avant de s'apercevoir que Boom était cané. La nuance, hein ? Du doigté.
Mais putain d'Adèle, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain tu prises l'affaire en main alors que c'est moi dont à qui on a chargé d'enquêter ?
Il s'est passé que je connais ta jolie veuve, Balou.
Pas possible.
A priori, j'ai rien à lui reprocher. Sinon d'être l'ami intime d'une dame que le dame m'avait chargé de surveiller.
Et la dame que tu causes, elle a mis le feu à l'Élysée. Tu es son père ou violer un petit garçon ?
Non, à ma connaissance, elle a rien fait.
Ah. Et alors c'est pour ça qu'elle est suspecte, soupçonnée d'avoir rien fait. J'en ai mon bandage hernière qui roule sur la jante, mec.
J'ai dit qu'elle avait rien fait à ma connaissance, gros. Mais j'ai idée qu'à la connaissance du vieux, elle a sûrement fait quelque chose. Du reste, je vais en avoir le cœur net. Fais ce que je t'ai dit et rembourre dans deux plombs bouburlingues. Ça joue ?
Jockey. Mais je suis prêt à te parier la peau de mes joyeuses que Madame Baum, c'est de la personne sans tache. Persil lave pas plus blanc, souviens-toi-en.
Là-dessus, il enfonce son badat 4 bons centimètres, ce qui amène le couvre-chef à la limite de sa visibilité, et il se barre en pantruche, comme un sanglier dans un champ d'investigation. Le dab à sa frite des grands jours.
Vous avez voulu me voir ?
Oui, patron. C'est rapport à l'affaire Monica Michael. Du coup, son regard d'émeraude se fige. Sa main de masseur se met à triturer un coupe-papier en bronze représentant un lézard.
Eh bien ?
Je viens de voir cette personne.
Où ?
Au Père Lachaise. Elle était en compagnie d'une de ses amies qui vient de devenir veuve à la fleur de l'âge. Un mince sourire fleurit sur ses lèvres glacées.
Madame Baum.
Oui, patron. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez chargé Berrurier d'enquêter à propos du décès normal.
Je voulais savoir s'il était normal, précisément.
Ah, puis-je vous demander la raison de votre inquiétude ? Il lâche son beau lézard et fait craquer ses joints de plomb en opposant ses mains comme pour une prière.
Dans notre métier, San Antonio, nous avons des intuitions. Je ne vous apprends rien.
En effet, patron.
Depuis quelques mois, je fais surveiller Monica Michael.
Et pour quelle raison, boss ?
Sans raison.
Il se tapote le pif.
Elle était l'épouse d'un éminent biologiste. Un jour, j'ai lu dans une revue technique un long papier sur l'œuvre de Michael. Ce papier m'a frappé.
À cause ?
Ce serait trop long à vous expliquer, mon cher ami. Ayant vu surveiller cette dame, j'ai appris qu'elle ne fréquentait qu'une seule personne. Et que cette personne était Madame Baum. Aussi, lorsque j'ai lu le décès du mari de cette dernière dans le journal, ai-je chargé Berrurier de s'assurer que tout était en ordre.
Et il a fait procéder une autopsie. La veuve a dû ruer dans les brancards.
Je ne crois pas. Elle a seulement exigé une discrétion absolue et elle l'a obtenue puisque la presse n'en a pas parlé.
Ah ben moi je réclame une contre-autopsie, patron.
Trop tard. Baum a été incinéré.
Non, non, non. Non, patron. Je lui raconte ma petite initiative du columbarium. Mon culot le fait un peu tiquer, pourtant le décoiffé apprécie les coups de tête.
Fort bien, mon bon. Carte blanche.
Je fonce au labo et je demande aux aminges de faire prendre le docteur défunt au columbarium. Je leur dis qu'une autopsie a déjà été pratiquée, mais que j'aimerais avoir leur opinion. Pas besoin de leur faire un dessin. Ils vont mettre le paquet, les frères. Il me reste plus qu'à attendre le preux Berru dans mon bureau. J'ai la joie profonde d'y trouver l'émouvant Pinot. Il est en train de se livrer une opération comptable. Nanti d'un petit flacon à étiquette rouge, il compte les gouttes qui s'en échappent.
27, 28, 29...
Salut Pinuche, qu'est-ce qui carbure pas ?
Ah, c'est toi, Sana.
Il me montre son mystérieux et inquiétant petit flacon.
Tu vois, c'est l'âge. Depuis quelque temps, j'ai des absences de mémoire. D'un moment à l'autre, je me rappelle plus ce que j'ai fait.
T'embêtant, ça, petit bonhomme.
Ah, tu parles. J'ai été consulté à un neurologue. Pareil, j'ai des troubles du disjoncteur. C'est comme qui dirait, pour ainsi dire... Comme un court-circuit qui se ferait dans ma tête à un certain moment.
Pauvre Pinuche. Pauvre cher, brave, bon et adorable Pinuche. Si doux, si inoffensif, si tendre. S'il y a la cervelle qui prend le jour, je le vois mal parti. Et ton médicament, c'est quoi ?
Elle m'en rappelle plus.
Il regarde le flacon.
Ah oui, du bijou fondamental. Il y a de l'extrait de glande là-dedans, avec du phosphore et du gardénal. Ça calme les nerfs et ça les régénère. Oh, j'ai confiance. 30 gouttes par jour, pas une de plus, qu'il m'a dit.
Il consulte sa montre.
Ah tiens, tiens, il faut que je les prenne, c'est l'heure.
Et il se remet à laisser tomber des gouttes dans son verre.
1, 2, 3, 4.
Le téléphone sonne. C'est le zig du labo qui me demande à qui il doit réclamer les faf officielles pour aller retirer la viande froide. Lorsque je raccroche, Pinuche achève de compter ses gouttes.
27, 28, 29...
Là-dessus, le chevalier Berru fait une entrée de théâtre. Il a mis des lunettes de soleil au vert gros comme des hublots de Batiscaf et à la monture à Chardienne. Tu te prends pour Belmondo ?
J'ai découvert ça récemment, dis donc. Rien de tel que des verres fumés pour te rendre méconnaissable. Si je te dirais que quand je suis entré chez moi avec ça, ma Berthe m'a pas reconnu. Et qu'elle s'est mise à me faire de l'œil parce qu'elle croyait que j'étais un représentant.
Puis en Pinouche.
Tu te farcis des gouttes, pépère ?
Pinot relève son flacon au bec duquel perle la 30e goutte.
Eh oui, c'est rapport à certaines absences de mémoire. Oh, ça me prend parfois d'un moment à l'autre, je me rappelle plus ce que je fais.
Le gros empoigne le menu flacon à pleine Francfort.
Et c'est bon ce truc-là quand on a le bub qui fait relâche.
Ah, c'est miraculeux. Je me rappelle plus qui en a pris et qui a été guéri. Voilà, je me rappelle plus qui.
T'as l'enseignement ?
Yes, monsieur. La dame qui se trouvait dans le cabinet de docteur quand c'est qu'il a lâché la rampe, c'est une certaine Monica Michael qui habite
à Moisson en Seine-et-Oise. Il en ouvre puissamment la bouche, nous découvrant, outre des chicots noircis et des débris d'un dentier sinistré, une langue grisâtre.
Mais tu...
Oui, je...
14, 15, 16...
Je regarde distraitement les gouttes qui pleuvent du flacon.
27, 28, 29, et toc, la 38.
Pinot verse un coup de Beaujolais dans son verre. Tu le prends avec du Gilienas, ton remède ?
Et pourquoi pas ? À la bonne vôtre !
C'est alors que je m'arrache à ma distraction. Malheureux, bois pas !
C'est à moi que tu causes ?
Bah, t'as compté 3 fois 30 gouttes dans ce verre.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Y'a pas plus minutieux que moi. Tu te figures que moi j'irai chahuter avec ça ? Alors que sur l'étiquette, y'a écrit en gros « Pas dépasser la dose prescrite ».
Il termine pas sa phrase, son nez tombe sur son gilet et il se met à roupiller.
Il se trouve pas là.
Je chope la boîte ayant servi d'emballage au flacon et je lis que dans le cas d'agitation forcenée et d'amnésie totale, on peut aller jusqu'à 100 gouttes. C'est à peu près la dose que vient de se farcir Pinouche. Rassuré, je le coltine dans mon fauteuil, je lui allonge les jambes sur une chaise, lui croise les mains sur le ventre, lui rabat le badat sur l'œil. Je lui glisse un coussin dans les endosses et je ferme les volets. Laissons-le oublier la vie. Avec la gueule qu'il a, il perd pas grand-chose. L'homme aux lunettes noires m'accompagne jusqu'au bistrac du coin. Ne m'as-tu point dit, honorable enflure, que le docteur Baume avait une assistante ?
Sifflet.
T'as l'adresse de cette souris ?
Vos désirs sont en désordre. Mercedes Maupuis, 118 rue de Caporal Épinglé.
Quel genre de fille c'est ?
Elle était au funérail, t'as dû la voir.
Bon, peut-être, et même sans doute. Pour pas dire probablement, seulement comme je la connaissais pas, je l'ai pas reconnue, comprends-tu ?
Évidemment. Il y a des moments que t'as des raisonnements qu'on se douterait jamais que t'es intelligent.
Bon, je reprends ma question. Quel genre de fille cette Mercedes Maupuis ?
Charmante brunette. Pas mal culbutée. Le genre friponne délurée. Une Mercedes à injection directe, quoi.
Allons lui rendre visite.
Je l'ai questionné en long, en large et en diagonale, ça n'a... Je vois pas ce qu'on pourrait lui tirer comme rap de verre de nez.
Eh ben, suis-moi, et tu verras. La rue du Caporal Épinglé est une voie distraite avec des immeubles à gauche... Des immeubles à droite et un carrefour à chaque bout. Le 118 offre la particularité de se situer entre le 116 et le 120. C'est une maison de 4 étages, pas mal conservée pour son âge. La concierge, une dame mesurant un peu moins d'1m50 et pesant un peu plus d'une tonne, nous apprend avec un air de profonde réprobation que Mercedes Maupuis crèche au deuxième. Nous nous engageons dans l'escalier... Au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, le chant véhément d'un quidam atteint nos trompes d'Eustache. Le ténor affirme que dans le lit de la marquise, ils étaient 80 chasseurs, ce qui laisserait entendre que la dame avait le bustier en forme de rendez-vous de chasse. Lorsque nous atteignons le second, nous constatons avec une certaine surprise que ce ramdam vient précisément de chez Miss Maupuis. Et donc gros, et elle retourne entièrement joyeux ta souris, se disant... Je sonne, ce qui a pour effet deux conséquences. Une, le chanteur la boucle, et deux, la lourde s'ouvre. Je me trouve nez à nez avec une fille n'ayant pour tout vêtement qu'une blouse blanche qu'elle tient fermée d'une main. J'ai pas l'honneur de la connaître, mais au premier coup de périscope, je piche qu'elle est blindée. Malgré sa volonté de se tenir droite et immobile, elle oscille comme un pendule. Mademoiselle Maupuis ?
Si, seigneur.
Je voudrais vous entretenir un instant.
Pourquoi un instant, eh ? Je rêve d'un Jules qui m'entretienne toute la vie, moi.
Elle soulève ses stores et me défrime.
Surtout s'il est baraqué comme vous. J'adore les beaux gosses et je m'en fais des cataplasmes. Tiens, c'est la gonfle.
Beru sent que son standing allait rater.
Oh là, oh, dites, ma gosse, faudrait voir à voir ce qu'on voit.
Et mon cul, c'est de l'inspecteur. Tarté inspecteur, hein, dit madame. Dis pas le contraire. Je reconnais ta hure. Je croyais me rappeler que t'avais du persil dans les narines. Comme quoi on peut pas se fier sa mémoire. Hein.
Insulte à inspecteur principal dans l'exercice de ses fonctions. Je peux pas le permettre. J'ai pas l'habitude de porter le P, mais...
En effet, t'as plutôt une bouille à le lâcher.
Beru l'abandonne, méprisant, et se tourne vers moi.
Je vais lui tenter un procès en divagation, hein.
T'es pas gardien de la paix, gros. Je la trouve marrante, cette beauté. Comme j'achève ces mots, un zig d'une 22aine d'années paraît dans le couloir. Il est en slip, chaussettes, cravate, c'est tout. Ses crins ébouriffés, son visage bouffi indiquent qu'il est à l'unisson de son hôtesse.
Et alors, Mercedes, c'est pour une césarienne ou quoi?
Allez, venez boire un pot.
Je fais signe au gros de remiser sa rancune et nous pénétrons dans un studio où un couple est en train de jouer aux touches pipelines. Ces deux-là sont complètement à l'ouelpé. Il y a de l'ambiance chez vous.
Faut bien se distraire un peu, hein. La vie est courte. Je vous présente Gaston et Hélène.
Enchantée.
Très heureux.
Vous éclusez un drink, mes petits poulets?
Je te jure que je vais lui attenter un procès en divulgation. La plaisanterie, je suis pas contre. Mais faut pas chahuter avec l'honneur professionnel.
Whisky ou vodka? Ou bien les deux mélangés?
Beru est pour. Moi, je me contente du whisky nature. Les amis Gaston et Hélène font comme si nous n'étions pas là et jouent à la bébête qui monte, qui monte, qui monte. L'autre copain de Mercedes, un dénommé Riri, reprend le cours de ses occupations et ôte la blouse blanche de notre accueillante hôtesse.
Quand je te disais qu'elle était culbutée, façon princesse.
Négligemment, le Mahou s'avance une main avide vers le culbuteur de la gosse. Sa main avide devient pleine. Il essuie immédiatement une mandale formidable de la part d'une partenaire de Bardet.
De quoi? Voix de portefeuille sous la personne de l'inspecteur principal dans l'exercice de ses fonctions!
Le gravot s'en empoignait Riri par sa cravate et lui fait décrire une douzaine de tours complets autour de sa personne. Après quoi, il se l'immobilise et lui téléphone un pain d'une livre dans le clapoir. Le pauvre Gaston glaviote une prémolaire et de la langue commence à soutenir deux incisives en instance de départ. Mais il est trop tard pour colmater les brèches. Beru pose son chapeau sur le divan et lui file un coup de boule dans l'aventure. Le nez du gars Riri se déguise en tomate trop mûre. Beru lâche, le gars pantalon.
Défends-toi, de Dieu, si t'es un autre!
Autant demander à des nouilles trop cuites de conquérir le titre de champion du monde des poids lourds. Écœuré, le gros le finit d'un crochet du droit qui flanquerait le torticolis à une centrale thermonucléaire. Riri va à dame et n'en bouge plus. La jolie d'admiration, Mercedes s'approche de Beru. Elle vénère sa force, elle caresse sa sueur et ponge son courroux.
Mon grand, ben je t'avais méconnu. Comme t'es fort, comme t'es beau, oh, comme t'es superbe.
Beru me lance un regard suprêmement triomphant avant de s'abattre sur le divan. Elle le pétrit, le consume, le consomme, l'assaisonne, le gobe, l'entonne, le déboutonne, le bonbonne, l'étonne, le trombone. Je tape sur l'épaule du gros. Tentative de corruption sur la personne d'un inspecteur principal dans l'exercice de ses fonctions. Mademoiselle va le sentir passer. Je crois pas si bien dire, pendant que mon digne camarade explique à Mercedes la façon pittoresque dont les poulets se perpétuent, je fais un brin de causette avec Gaston qui lui a terminé ses devoirs. Vous faites souvent vos petites galipettes ici?
Oh, quelquefois. Mais aujourd'hui, c'est de l'imprévu, hein.
Ah ouais?
Ben, il est arrivé un truc heureux à Mercedes.
Son patron a été incinéré?
Ah ouais, il lui a laissé de la braise, hein.
Ah, sans blague. Elle hérite?
10 briques. Ça s'arrose, vous comprenez?
Bigre. Il avait couché sur son testament?
Plutôt sur sa table d'auscultation. Hein. Il se l'a payé entre deux clients. Ben, c'était, paraît-il, un drôle de frénétique.
Gaston,
le coup de peau, quoi, 10 briques.
Gaston,
elle a de quoi se voir venir, hein, maintenant,
Gaston.
Mercedes. Bon, remarquez, ça fait
Gaston.
Pas beau un billet de 50.
Gaston.
Oh, ben, vous m'excusez, mais faut que je la termine.
Gaston.
Hélène, c'est de la personne qui a du tempérament, hein. C'est pas en lui récitant du Musset qu'on la contente.
Pendant que ces messieurs-dames s'expliquent, je vais dans l'entrée. Non pas par pudeur, je suis pas du genre hypocrite, mais parce que dans l'entrée se trouve un appareil téléphonique. Je décroche, je fais le numéro du vieux.
Dites voir, patron. Estimez-vous possible qu'un héritier palpe 10 millions en liquide le jour des funérailles du testataire?
Certainement pas.
C'est pas ce que je pensais, hein.
Pourquoi cette question, mon bon ami?
Je le mets au parfum.
Je vais contacter le notaire du Baume, rappelez-moi dans 10 minutes.
Entendu.
Santonio.
Patron.
Qu'est-ce que c'est que ces gémissements de femmes que j'entends?
Ah, c'est Beru qui interroge la fille.
Qu'il ne la brutalise pas. Enfin, pas trop.
Soyez sans inquiétude, monsieur le directeur. Il y a dans les cris que vous entendez une grosse part de chiquet.
10 minutes plus tard, les choses étant ce qu'elles sont, Beru a terminé son cours de dépaysement de même que l'ami Gaston. Le guerrier est en train de remiser ses dominos sur la tablette de lavabo de la salle de bain. Ces dames, un peu dessoulées, échangent leurs premières impressions. Mercedes confie à sa compagne la surprise que vient de lui causer la performance du gros. Elle m'avise et soudain s'apitoie.
Et toi, mon pauvre biquet, alors t'as fait Tintin?
T'occupe pas, je suis un contemplatif.
Polisson.
Et puis j'espère rester en tête à tête avec toi, ma beauté. Je préfère l'amour en petit comité. Elle me jauge d'un long regard aussi langoureux qu'un disque de Tino Rossi.
D'accord. Tu vas rester, mon joli.
Alors, si tu permets, il faut que je prévienne chez moi que j'aurai du retard. Je retourne tuber au Vioc. Il attendait mon appel avec impatience. Ce qu'il a à m'apprendre est passionnant. Jamais le défunt docteur Baum n'a testé en faveur de son assistante. Tiens, tiens. J'ai l'impression qu'on va faire un petit pas en avant, patron.
Je le souhaite aussi. Vous me tenez au courant, bien entendu.
Bien entendu. Je rejoins l'aimable compagnie. Gaston propose d'aller bouffer une soupe à l'oignon, mais cette suggestion n'éveille d'écho que chez le gros.
Moi, je suis bonheur pour la soupe à l'oignon. Les galipettes, ça creuse.
Gaston et lui font équipe estir. Hélène emmène Riri peu après, si bien que je me trouve seul avec la délicieuse jeune fille. Miss Thermomètre me noue ses bras autour du cou.
T'as eu raison, grand fou. On est bien tous les deux.
Bah voyons. Le carnaval, c'est marrant, mais ça fatigue. Et puis tout ce monde qui déambule dans ton appartement, c'est pas tellement prudent.
Bah pourquoi tu dis ça? Ce sont des copains, tous carabins.
Oh bah carabins ou pas, 10 millions, c'est tentant, ma gosse. Elle blêmit. Elle voudrait poser des questions, émettre des exclamations, voire de simples interjections, mais le tout lui reste en vrac dans le gosier. Une somme pareille, ça se dépose dans une banque. Suppose que je sois un malfrat et que je te dise, passons la monnaie, tu seras bien obligé de te soumettre, hein? T'aurais même pas la ressource de porter plainte, parce que ce pognon, ma petite Mercedes, j'ai dans l'idée que le grand rabbin de Paris est encore plus catholique que lui. Vrai ou faux? Elle fait une pâle tronche, la Mercedes. Oh oh oh! Elle a le capot qui se ratatine, les bougies qui s'encrassent, le joint de culasse qui se fêle et les chemises qui se déchirent.
Qu'est-ce que vous voulez?
Avoir une explication avec toi, bel enfant. Si elle est franche et loyale, peut-être que ton avenir sera potable. Sinon, les mamans le raconteront plus tard à leurs petits-enfants pour leur faire peur. C'est Madame Baum qui t'a refilé cette oseille, admet.
Oui.
Pour acheter ton silence.
Oui.
Alors raconte. Elle se pourlèche les lèvres, croyant qu'en les humectant, elle facilitera son élocution. Eh ben, je t'écoute. Tu veux qu'on aille discuter de tout ça à la maison Pullman?
Non. Le jour de la mort du docteur, sa femme et lui ont eu une discussion très violente.
À propos de quoi?
À propos d'un voyage, je crois.
Continue.
D'après ce que j'ai cru comprendre, le docteur voulait pas que sa femme continue de s'occuper de quelque chose.
De quoi?
J'ai pas bien compris. Il a dit à un certain moment, dans la vie, faut savoir s'arrêter à temps. Si tu ne laisses pas tomber ce type-là tout de suite, t'es flambé.
Après?
Le docteur est sorti de ses appartements furieux. Il est revenu dans son cabinet. Sa femme est entrée. Elle lui a dit d'une voix gentille, « Alexandre, je vais téléphoner. Tout ce que je te demande, c'est de le recevoir, mais de rester calme. »
Et qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, il s'est retourné, il a regardé sa femme, puis il a fait un signe affirmatif.
Et l'homme en question est venu?
C'est pas un homme qui est arrivé, mais une femme.
Monica et Michael.
Ouais.
Alors?
Ils se sont enfermés tous les deux dans la salle d'auscultation. Il y a eu une discussion très longue.
Et après la petite poule?
J'ai frappé à la porte.
Ouais.
Sur le maman, personne m'a répondu.
Ouais.
J'ai frappé plus fort.
Uh-huh.
Et c'est Madame Michael qui m'a ouvert. Elle était un peu pâle. Elle m'a dit, docteur vient de prendre un malaise en m'auscultant. Il est tombé et a renversé quelques flacons. Effectivement, c'était plein de verres cassés par terre. J'ai couru à lui, j'ai mis la main sur sa poitrine. Le cœur ne battait plus.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai couru prévenir sa femme, laquelle est médecin aussi.
Et où elle exerce, celle-là?
Elle n'exerce pas la médecine générale. Elle poursuit des études de biologie.
Voyez-vous.
Pourquoi?
Molo poulette, hein. Des questions, c'est ma partie. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Baum?
Ben, elle a couru. Elle m'a demandé d'appeler un autre docteur, ce que j'ai fait. Le confrère a constaté le décès et a conclu à un arrêt du cœur.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ben, rien de particulier le premier jour. Mais le lendemain, votre copain de la police est arrivé. Alors, Madame Baum m'a prise à part et m'a demandé de passer sous silence les discussions ayant précédé la mort de son époux.
Et c'est à ce moment-là qu'elle t'a refilé Lady Brick.
Oui.
Dis chérie, ça serait pas plutôt toi qui aurais fait un coup de chantage?
C'est-à-dire que j'ai protesté quand elle m'a dit ça.
Tu les détestais, hein, je parie.
Bon, comment le savez-vous?
Je suis psychologue. Tu te le farcissais le toubib à vous.
Mais je...
Non, allez, fais pas ta rosière. Après la séance de tout à l'heure, si tu postules à un prix de vertu, c'est que t'as pas peur des libellules.
Oui, j'étais sa maîtresse.
Ah, alors t'as réclamé un dédommagement pour tes frais d'omission.
C'est elle qui m'a proposé de l'argent tout de suite.
Et alors?
Ben, elle m'a dit, combien voulez-vous? J'ai répondu 10. Je voulais parler de 10 000 nouveaux francs. C'est pas... Et puis c'est 10 millions qu'elle m'a remis.
C'est marrant ce quiproquo. En tout cas, il signifie que la veuve tenait vachement à ce que l'assistante écrase le coup des disputes. D'un geste machinal, je caresse ses longues cuisses nues. Eh ben tous, hein, cette pépé. À ton avis, belle amoureuse, ton toubib, il est clapsé de sa belle mort ou quoi? Elle déboutonne ses paupières et ouvre des yeux béants de stupeur.
Mais, naturellement.
Idée cardiaque.
Mais il ignorait. Mais il était fatalement puisqu'il est mort d'un arrêt du cœur.
Puisque tu piotais avec lui, il a dû te faire des confidences à propos de sa femme, non?
Jamais.
Tu fiches de moi?
Ah ben on voit que vous l'avez pas connu, hein, Alexandre. C'était un homme renfermé et silencieux.
Et au dodo, c'était une épée?
Pas mal. Merci, et vous?
Pendant une fraction de seconde, j'hésite à le lui prouver. Mais les restes de Berrurier, non. Franchement, aussi beau soit-il, je peux pas me les cogner. C'est une question de standing. Dans mon burlingue, Pinot dort toujours. J'y soulève une paupière et son regard laiteux me fait frissonner. Le mieux, c'est de le laisser poursuivre sa virée au pays du cirage. Je grimpe au labo. J'y trouve le cadavre du docteur Baum sur une table. Il est d'un vert bronze qui intéressera un peintre.
Bonsoir, monsieur le commissaire.
Le rouquin du labo fait son entrée, un sandwich et une bouteille de bière à la main. Il pose le tout sur la table d'autopsie et me tend sa poigne valeureuse. Où on en est, fiston? Il va chercher un bouquin sur un rayon. C'est un traité sur les origines du judo.
Lisez le second paragraphe de la page 28, monsieur le commissaire.
J'obéis. Dans ces lignes, il décrit la manière dont les initiés peuvent mettre à mort un ennemi en provoquant un arrêt du cœur par simple pression du pouce, sur la face externe du glotte-muche condescendant. Lorsque j'ai lu, il me fait signe d'approcher de la table. Il me montre une petite tache bleuâtre sur le corps de Baum. Elle est large comme une pièce de vin rond, et n'est visible que parce que le cadavre a une blancheur marmoréenne. Vous croyez que...
À 95%, commissaire. Cette tache n'est devenue apparente qu'à partir du troisième jour. Au moment de l'autopsie, les chairs possédaient encore une coloration qui l'atténuait, comprenez-vous?
J'imagine la scène. C'est clair comme de l'auroch. Virginie Baum est en cheville avec Monica Michael, pour l'accomplissement de je ne sais quelle sale combine. Le docteur est au courant et risque de tout faire échouer. Alors Virginie prévient Monica, qui décide d'agir. La dame a des talents de société, entre autres, celui de pouvoir provoquer un arrêt du cœur par l'application de certaines prises secrètes. Elle essaie de mettre Baum à la raison, n'y parvient pas, et bien elle envoie chez Plumeau.
Ma petite démonstration vous satisfait, monsieur le commissaire?
Pleinement.
Et qu'est-ce que je dois faire du client?
Mettez-le au frais, le temps est à l'orage. Je prends congé et je rentre chez ma bonne Félicie pour un dodo réparateur.
Tu veux du thé? Du café? Ou du cacao, mon grand?
Ma brave femme de mère se tient à mon chevet, toute proprette dans sa robe grise à col blanc. On dirait une vieille fille bien sage. Du cacao, ça c'est une idée. Pense à mon enfance, à des vacances dorées. Le temps passe et on fout de la boue et de la merde sur son âme d'enfant. Mais il suffit d'un bol de cacao pour qu'elle reprenne l'éclat du neuf un instant. Du cacao ment. Ça carbure ce matin?
Mais oui. Tu déjeunes ici?
Sûrement pas.
Tu n'as pas pris froid au moins?
Pourquoi?
Au Groenland.
Mais non, penses-tu? Maintenant il est climatisé le Groenland. Elle est technique moderne. Quelle heure il est?
7h30.
Avant de préparer mon cacao, tu veux bien téléphoner chez Berrurier pour lui demander de passer ici?
Tout de suite, mon grand.
Oui. J'achève mon cacao lorsque Sa Majesté Beru Ier radine. Croyez-moi, ou bien allez vous faire déshonorer par les Grecs, mais il arbore un costume neuf. Et son costard, c'est pas celui de tout le monde, hein, vous pouvez m'en croire. Il est blanc avec des rayures noires. Avec ça sur les endosses, le gros, il a autant de chances de passer inaperçu qu'un troupeau de bisons sauvages dans une verrerie de Murano. Tu nous étonneras toujours, Beru.
À cause de pourquoi tu dis ça?
Mais ton costume. Je savais pas que ça existait ailleurs que chez le costumier du Châtelet, ou chez un obscur fripier de la Havane.
Ah, j'ai eu un vase terrible. Je voulais quelque chose d'élégant qui fasse jeune. L'expérience d'hier avec l'Opel m'a prouvé que j'avais un don de séduction vachement bébé.
Quel Opel?
La fille chez qui on l'a rendu visite, l'assistante, quoi.
Tu veux dire Mercedes?
Oh, excuse du peu, je m'égorais de marque. La façon dont je lui ai réussi son rodage de soupape m'a fait piger que, question golf juin, je craignais personne.
Qu'est-ce que j'entends par question golf juin? Il fronce ses beaux sourcils constellés de choses douteuses.
Ah non, je veux dire don juan. Demande pardon, monseigneur. Alors avec toi, faut pas chahuter le patibulaire ou la grammaire, ça en devient de la maniaquerie à la fin.
En venant à son costard, il fait valoir les revers larges de 30 bons centimètres.
Mort la cam. Ça c'est de l'anglais.
Il serait importé d'Elbeuf que ça m'étonnerait pas.
Ça se pourrait. Et t'as vu la coupe? On dirait du sur-mesure avec la double fente par derrière, mon prince.
Il enlève le pan de sa veste.
Avec ce système-là, je peux m'engager chez les Grecs, gars. On a le pose accessible. On me frappe dans le dos, je lève le rideau du magasin. Directement du producteur au consommateur.
Félicie, qui survient sur ses entrefesses, pousse une exclamation de surprise en découvrant le gros dans cette tenue de scène.
Oh, monsieur Berrurier.
Mes hommages, madame, mes hommages du matin.
Puis passant un pouce conquérant sous ses revers monstrueux.
Vous qui êtes une dame, je vous prends à témoigne. Comment trouvez-vous mon complet?
Magnifique.
Vous avez vu la doublure?
Un vrai coucher de soleil sur l'Adriatique. Mans se retient de rire. En plein délire, le gros nous fait une démonstration de braillette. La sienne ferme avec une fermeture éclair.
Alors voilà, ce costard, il est avant tout fonctionnel. et hop, pour le derrière. Et hop, pour le devant. Dans les deux cas, un geste suffit, suivant les mœurs de celui qu'il met.
Tout en parlant, il fait aller et venir la fermeture. T'aurais pu mettre un slip, hein, gros. Il se penche et examine par-dessus son ventre l'entrée du soupirail.
Ah mince, ah, j'ai dû l'oublier chez le marchand, lui. De toute manière, il était plus métable. Je l'avais acheté en 1948, il fallait que je lui trouve un remplaçant.
Mais qu'avez-vous?
Le gravose devient violet.
C'est personnel. Je viens de bloquer le fermoir avec un morceau de moi-même.
Il s'escrime un moment, chuant et soufflant, tandis que Félicie détourne pudiquement les yeux et que je pouffe de rire dans mon bol de cacao. Le monstrueux stoppe ses efforts.
Vous n'auriez pas une goutte d'huile?
Mal drive jusqu'à sa cuistance. Quand le maflu revient, il a une tache d'huile large comme un couvercle de lessiveuse sur le devant.
Voilà, le petit malheur est réparé. Quel programme, baron?
On va se faire une virée à Moisson.
C'est ça, c'est où ça?
Non, c'est Néoise. Plus loin que Mantes.
Jockey, une virée à la Cambrousse aujourd'hui, c'est l'idéal.
Il est 10 plombes du mat lorsque nous stoppons sur la petite place de Moisson. À l'instant précis où on descend de la bagnole, une voiture qui radine en sens inverse stop. Madame Beaumont descend. Me dit que si elle peut nous voir, Berry et moi, tout est fichu. Elle nous connaît l'un et l'autre, et je voudrais pas qu'elle nous voie ensemble. D'une secousse, je propulse Berry par une petite porte latérale de l'église.
Mais quoi, ça rime, quoi? On est venu ici pour faire notre dévotion, joue, quoi?
Mais t'as donc pas vu Madame Beaumont arriver sur la place?
Non, sans char.
Textuel, gros, textuel. Je file un coup de périscope par-dessus les prie-dieux alignés et j'aperçois cette démoniaque Virginie Beaumont qui vient de faire également son entrée dans la maison de Dieu. Est-ce qu'elle nous aurait repérés par hasard? Comme elle remonte l'allée centrale et qu'elle va donc de ce fait nous découvrir, je désigne à Beru le confessionnal. Il a pigé. Vite fait, on pénètre dans la cabane au péché. Le gros se fourre dans le compartiment du milieu, c'est-à-dire dans celui réservé aux prêtres. Et moi, je m'agenouille dans l'un des deux destinés aux pénitents. Un moment s'écoule. On entend le pas de la petite madame qui arpente le temple. Et puis la porte de l'église grince à nouveau. Un second pas retentit. Les deux se rejoignent. Je coule un regard very curious à l'extérieur. J'aperçois un grand type blond, sanglé dans un perméable clair. Il discute à voix imperceptible avec Virginie. Pendant que le couple chuchote, une paroissienne entre à son tour dans l'église. Et elle vient tout droit au confessionnal. Elle se place dans le compartiment resté libre. Je fais la grimace. Ça tourne mal, notre histoire. Là-bas, le couple se sépare déjà. L'homme ressort de l'église et Virginie Beaumont en fait autant. Le moment est venu de filer. Maman, il y a cette pauvre pomme dans le confessionnal qui entend déballer son linge sale. Si elle doit sortir un curé en costard blanc à rayures noires, portant un biteau sa feutre ramollie enfoncée sur le dôme, et ayant une tache d'huile large comme le golfe du Lion sur le futal, elle va dire que quelque chose ne tourne pas rond dans le clergé. Beru, qui gamberge de la même façon, fait coulisser le petit Judas qui nous sépare.
Hé, mec! Comment qu'on s'taille de ce piège à con? Un peu de décence, non?
Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir en douceur, bonhomme.
Lequel quoi est-ce?
Tu confesses la dame.
Et oh, tu débloques, gars.
Mais non.
Parce qu'elle aura fait sa toilette intime, elle se débinera. Et nous, on pourra en faire autant.
Mais comment qu'on fait? Je m'en rappelle plus.
Eh ben t'improvises, gars. T'as du génie, non?
Oh là là. Si le bon Dieu nous voit, il doit pas nous avoir à la chouette en ce moment. J'ai idée que les mauvais points s'additionnent là-haut.
Ayant dit, il fait coulisser le second trapon et se trouve de ce fait en communication avec la paroissienne.
Alors, mon lapin, où ce qu'on est?
Un peu déconcerté, la pénitente marque un temps d'arrêt, et puis elle se met à raconter ses petites histoires. Elle a dit du mal de sa voisine dont elle est jalouse de la nouvelle voiture.
Ah, c'est pas bien ça, mon chou. C'est quoi cette bagnole?
Une Amicis.
Et c'est pour une malheureuse 3 chevaux que vous caillez de lait? Mais l'Amicis, qu'est-ce que c'est, je vous le demande, hein? Une 2 chevaux moins au point. La preuve, vous n'avez pas l'embrayage semi-automatique dessus. Bon, d'accord, les sièges sont plus moelleux, mais le toit ouvrant, dites, hé, où qu'il est le toit ouvrant sur l'Amicis? Faut un ouvre-boîte, si on veut en faire un. Cherchez des patins à sa voisine pour ça, je vous jure. Après.
La dame avoue avoir commis le péché de gourmandise. Elle avait accommodé un bon petit plat, il y avait des restes, elle les a mangés toute seule, en l'absence de son mari.
Qu'est-ce que c'était ce plat?
Un osobuco.
Ah, je dois dire que c'est pas dégueulasse. Vous y mettez un jus d'orange dans votre osobuco, naturellement.
Un jus d'orange?
En mettez pas.
Non.
Vous me direz 3 patères et 3 avées pour vous apprendre, continuant. Eh ben, vous avez largué votre menteuse.
Ce que j'ai à confesser est délicat.
Vous relongez, voyons, fais pas votre chochotte, j'ai l'habitude d'en entendre, il est salé, je vous le promets.
J'ai trompé mon mari.
Oh, la petite friponne. Racontez-moi voir un peu le topo.
C'est un représentant. Il est venu hier dans le pays.
Et c'est ses hommages qu'il représentait, le bandit.
Ah non, non, de la literie.
Oh, tu parles d'un futé. Alors
moi, je venais de faire ma toilette. Je, J'avais qu'un peignoir sur le dos.
J'imagine le topo. Ensuite
Il m'a proposé un couvre-lit qui me plaisait beaucoup. Il fallait justement que je change le mien.
Pas d'excuses, au fait.
Je l'ai emmené dans ma chambre.
Voyez-vous, il était beau gosse, ce mec.
Oui, plutôt jeune. Oui, jeune, vous comprenez, mon père.
Il n'y a pas que les genoux qui savent donner l'éclat du neuf à une bergère. Bon, racontez.
On a commencé à plaisanter, il m'a fait des compliments.
Il a dû mettre son petit numéro au point, votre marchand de paillasse. Quand on fait un job qui vous amène dans la chambre à coucher des dames, et c'est pas marrant de marquer des buts. C'était bien.
Hein?
N'en faites pas votre sucre, et quand on double son vieux avec le premier tireur de sonnette venu, on n'a pas le droit de jouer des bêcheuses. Réponse, c'était bien?
Pas mal.
Mais elle avait vite, hein, je pense.
Ah oui, ma femme de ménage allait arriver, je redoutais d'être prise en flagrant délit.
Si bien qu'il vous a pas fait le nénuphar indo.
Non.
Ni la bretelle à moustache.
Non.
Ni le tripoteur en panne.
Non.
Non plus que la dégustation napolitaine.
Non.
Mais du bâclé, quoi. Vois ça d'ici. Un coup pour jeter la casquette, un coup pour retourner la chercher. Même à la pinte de clapier, je marrais en voyant ça. Se représentant, c'est tous rigolo et compagnie. Ça enlève son bénard avant d'enlever son chapeau, ma pauvre petite. C'est vrai que chez soi, c'est pas l'idéal, surtout dans ces petits bleds. Vous n'allez jamais à Paris l'après-midi?
Quelquefois.
On pourrait s'y trouver. C'est 4 matins, non? Vous attendrez à Saint-Lazare.
Je tapote contre la cloison, le gros réalisme.
Mais je voulais vous y trouver. Bon, bien. Bon, à part ces petites saloperies, mon trognon, il n'y a rien d'autre à déballer?
Non.
Jockey. Bon, tout ça, c'est pas très grave. La vie est courte. Si qu'on se marrait pas un peu de temps en temps, on deviendrait vite neuneux, ma poule. Hein? Vous avez quel âge?
35 ans.
La belle âge. Je suis aucune femme est en pleine bourre. Profitez-en bien, va. C'est pas quand vous aurez des valoches sous les yeux et des Robert qui feront des nœuds que les bons hommes se jetteront sur vous.
Vous ne me donnez pas l'absolution, mon père?
Monsieur, mon trésor, de tout cœur.
Et comme pénitence, mon père?
Comme pénitence? Eh ben, faites une gâterie à votre mari ce soir. Le pauvre tordu, il a quand même droit à sa part de rigolade, non? Après tout, c'est lui qui paie le gaz. Allez, ciao!
Lorsque la dame quitte le confessionnal, je suis déjà affalé sur un prie-dieu voisin. Elle paraît étourdie, la pauvre biquette, comme si elle venait de traverser le Sahara, pince sans ombrelle. Elle me regarde, je souris, elle a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. Elle fait un large signe de croix et se barre. Péru sort alors de la guérite, issue comme une motte de beurre sur une plaque chauffante.
On étouffe là-dedans. Moi qui suis un peu saxophone sur les bords, j'aurais du mal à m'accoutumer si je serais vraiment curé. Et pourtant, c'est pas désagréable comme turbin. Figure-toi que...
Ne trahis pas le secret de la confession, gros. D'ailleurs, j'ai tout entendu.
Avoue que je m'en ai bien tiré.
Comme un pape, gros. Comme un pape.
Voilà comment on va opérer, gros. Je vais rendre une petite visite de courtoisie à la mère Michael.
Tu la connais?
Un peu.
C'est une de tes conquêtes?
Yes, gros. C'est une de mes conquêtes.
Du nectar?
Il faut rien exagérer. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais trop de cara. Chez les souris, faut l'admettre, il y a la cote d'alarme, gros, hein. Quand elles ont trop de bouteilles, on n'a plus envie de trinquer.
Ah, t'as raison. Passé un certain délai, je déclare les nanas ineptes pour le service armé.
Et ta Berthe, pro?
Confondons pas. Berthe, c'est mes brancards. Je suis tattelé. Et d'habitude, c'est un peu comme la forge vermifuge ou quadrupède, je me rappelle plus au juste, qui tient en équilibre les trucs instables. Avec Berthe, c'est comme de je mettre à table chez soi pour torturer le ragoût. Bonne femme, tu piges. Même s'il n'y a pas de nappe et pas de serviette. Même si les couverts sont pas signés Christophe Tubec, sans chichiter, biscotter dans tes meubles. Seulement, sitôt que tu te pointes au restaurant, tu casses la cabane si la cuisine n'est pas au beurre. Ou si que le loufia a omis de te placer des cure-dents sur la table ou t'apporter un bol de flotte après l'Omar Terminus. À l'extérieur, on devient exigeant. C'est la nature de l'homme en particulier, du français au général. Faut s'y faire.
Je lui fais signe de suspendre pour un temps son éminente dissertation. Si on revenait à notre turf, gros.
Excuse, je causais pour parler. Alors, monsieur le marquis, votre chasse à coups, on l'a fait en jeep ou à dos de mulet?
On l'a fait à pied, gars. Je te disais que j'allais rembiner la vieille. Sous un prétexte quelconque, je l'emmène balader. Toi, l'œil de lynx, tu seras planqué dans les environs. Si tout que tu nous verras filer, tu t'introduiras dans la bergerie et tu visiteras toute la tôle de fond en comble. Y compris les dépendances, vu?
Espère un peu, mec, j'ai le fouineur aimanté, pas besoin de boussole.
Bon, alors maintenant, il se peut qu'elle ait du trèpe, hein. Auquel cas, on remettra la perquise à plus tard. Ça joue?
Lui approuvé, bon pour accord.
Je le laisse dans la campagne bruissante, on dirait un zèbre en liberté.
La sapinière est paisible lorsque je m'annonce. Je sonne. Nobody ne répond. Les volets sont clos comme les yeux de Pinot. Et un silence entier règne sur la propriété. Je m'éloigne pour aller rejoindre le révérend Berrurier qui drague dans un petit chemin forestier proche de la demeure. Je vais pour le héler, mais du bras, il m'intime l'ordre de la boucler. C'est donc à pas menu et feutré que j'opère la jonction. Qu'est-ce qui t'arrive, beau zèbre ?
Je crois qu'on est plusieurs à voyager pour la même maison.
Comment ça ? Il me désigne une bagnole noire stoppée dans le chemin un peu plus loin.
Comme je m'ai annoncé, il y a un type qui est sorti de la chignole et qui a escaladé le grillage.
Pas possible.
Sifflé. À l'heure où je mets sous presse, il est en train de batifoler chez la bioc. Elle y est pas, hein ?
Non.
Je vois qu'il a eu la même idée que nous, ce pèlerin.
Ça serait pas un grand blond vêtu d'un imperméable blanc ?
Textuel.
Ah, ben c'est le type qui a rejoint Virginie Baume dans l'église.
Alors que décide le commissaire 2002 ?
Il y a deux écoles, gros.
Je sais, l'école libre et l'école laïque.
Ou bien, on pénètre à notre tour dans la propriété afin de choper le visiteur en flagrant délit. Ou bien, on attend la sortie, on lui file le train pour voir où il va.
Je suis pour la première prothèse. On est toujours à temps de retrouver son PC after.
Ah, tu trouves ?
Et puis s'il est pote avec la mère Baume, par elle, on aura son curricule d'homme vitré.
Bien pensé. T'es chargé ?
Ouais, tu sais que je sors jamais sans ma bonne. Ah merde, j'ai oublié mon soufflant chez le tailleur.
Oh, t'es décidé à faire sa fortune, hein, cet homme. Tu laisses ton slip et ton revolver. Palpe mes vagues, elles sont aussi démunies d'artillerie que les arsenaux français en 1940.
Écoute, depuis quand est-ce qu'on a besoin d'une mitrailleuse jumelée pour arrimer un kidam ?
T'as raison, la lune, on y va. Et on escalade le grillage à notre tour. Je passe le premier, à tout seigneur, tout honneur. Lorsque c'est le tour du Gravos, un bruit caractéristique se fait entendre. Il saute sur la pelouse de Monica Michael et constate avec moi que le fond de son falzar est resté accroché au sommet du grillage. Il se met à flotter comme un pavillon victorieux.
Que chéri de métier incomplet, complètement en lèvres. Je l'ai laissé au champ d'honneur de l'exercice de mes ponctions, je te le fais remarquer. Il sera sur ma dot de frais. La France, moi, je veux bien lui faire cadeau de ma peau, mais pas de mon pantalon. Il n'y a aucune raison.
Mais oui, tu t'en achèteras un tout neuf. Enfer ! Nous sommes à l'affût derrière un massif de fraisiers. J'ai beau me détroncher, je vois rien. La maison est toujours ferme à gars.
C'est le désert de Gabi. Où qu'il est passé, mon oiseau ?
Un léger grincement nous parvient. Le bruit provient de la construction sans fenêtre qui s'élève au fond du jardin. Nous hasardons nos museaux dans cette direction. Ça nous permet de constater que l'unique porte de la dite construction est entrouverte.
On charge
à la baïonnette. Nous voilà partis. Les coups au corps sur la pelouse. Chemin court en faisant, le gros se prend les nougats dans l'arceau de fil de fer d'une bordure et opère un vol plané impressionnant. Il atterrit au milieu d'un énorme massif de rosiers. Lorsqu'il s'en extrait, un revers de son beau costard à rayures pend sur le veston. Et le Gravos, qui tout le temps ressemblait à un porc, ressemble maintenant à un porc épic. Stoppé dans sa furia française, il se met à arracher les épines qui transforment son nase en plotte d'épingle. C'est pas le moment, bonhomme. La lune.
T'es marrant, toi, t'es marrant, j'ai l'impression que mes parents étaient cactus. Puis t'as vu ma vestouse maintenant.
Sur la note de frais.
Oui, d'accord, au moins bon sera d'accord. Mais jamais je retrouverai le même costard, Sana. Voilà le drame. Ce complet était unique.
Lors des considérations n'ayant pas encore sonné, je poursuis ma marche en avant, me voici au seuil de la Lourde. Je passe mon regard velouté à l'intérieur, ce que j'asperge me fait douter de mes sens. Je m'attendais à un laboratoire quelconque, ou à une geôle, resserrée, ou à autre chose, mais pas ça, alors non, pas ça. Berrurier, qui m'a rejoint, est pineux comme un buisson ardent, mate à son tour, il tressaille. Sa glotte fait roue libre, et son regard lui tombe dans les chaussettes. Il a toutes les peines of the world à le ramener à la surface. Ce que nous voyons, mes enfants, c'est un appartement de poupées. Gulliver à Lilliput. Supposez que les galeries Lafayette reconstituent dans la plus vaste de leurs vitrines une maison miniature et vous serez sur les berges du réel. Il y a là plusieurs pièces dont les cloisons s'élèvent à 1m20 à peu près. Un homme de taille normale peut avoir une vue générale de l'appartement. C'est adorable. Tout est à la taille d'une boîte à biscuits. Un gymnase avec une balançoire pas plus grande que celle d'un écureuil.
Oh, dis donc. On se croirait chez Lily la pute.
Le type blond se déplace minutieusement dans ce décor ahurissant. Il paraît chercher quelque chose. Ça biche, pêcheur ? Mes aïeux. Cette volte-face. On dirait qu'il vient de confondre un câble à haute tension avec ses suppositoires habituels. En moins de temps qu'il en faut à qui de mes choses pour dégainer sa rapière, le voilà qui me braque avec une arquebuse. Il s'avance, le pas net, l'œil de marbre.
Levez les mains !
Je cramponne les nuages vite fait.
Avancez !
Je m'approche de lui.
Assez comme ça.
L'arquebusier n'a pas vu Berrurier.
Qui êtes-vous ?
Quel est son accent ? Je cherche, c'est léger, mais c'est pas l'accent du Berry. Un touriste ?
Papier.
J'ai pour porter la main à mon veston.
Attendez ! Tournez le dos.
C'est un accent d'Europe centrale, décidément. J'obtempère.
Maintenant, sortez votre portefeuille et lancez-le-moi par derrière. Si c'est une arme que vous prenez, je vous abats, avant que vous ayez eu le temps de vous en servir.
Pas mal combiné. C'est un professionnel, ce mec-là.
Commissaire San Antonio. Je vous connais de réputation.
C'est un honneur que j'ai pour, en ce qui vous concerne, vous êtes monsieur...
Ah, monsieur Machin. Qu'êtes-vous venu faire ici, commissaire?
La même chose que vous.
Eh bien, tout comme moi, vous aurez fait chou blanc. Comment se fait-il que vous soyez sur l'affaire? Il y a eu des fuites?
Il faut croire.
Dommage. Allez au fond de la pièce, voulez-vous?
Vous partez?
Oui.
Je me demande très fort s'il va m'assaisonner avant de filer.
Non, je ne vous abattrai pas. Gardez les mains levées pendant que je referme la porte. La serrure est vicieuse. J'aurai une marche suffisante. Comme je quitte votre beau pays dans les heures qui viennent, il est inutile que je commette un gros délit.
D'accord. Le zig recule jusqu'à la lourde. À la qualité du bruit, je sais qu'il est maintenant sur le seuil. Je perçois un choc qui, pour être sourd, n'en est pas moins violent.
Descendez, on vous demande.
Je me retourne, le gravot c'est là, une bouteille à la main.
Tu peux stopper ta gymnastique, Sana. Remarque, c'est pas mauvais pour la circulation du raisin.
J'abaisse les brandillons et je m'approche du seuil. Le zigoto à l'impair gît dans le soleil, sa pétoire est tombée à ses côtés. Il bouge plus.
C'est bien la Providence qui a placé cette boutanche à portée de poigne, juste à côté de la porte qu'elle était, bien sage, à m'attendre. J'ai vu qu'elle a chopé par le cou.
Je palpe le matraqué. Eh ben, dis donc, Beru, tu l'as défoncé, cher homme. Ma main a beau explorer sa poitrine sous l'impair, on joue le monde du silence dans sa cage d'horloge.
Ah, t'es sûr qu'il est viande froide?
Certain. Tu y as administré une dose pour mammouth.
Eh, je m'ai pas méfié, mais ces champedoises ont un cul comme je suis de Berthe. J'ai cru qu'elle allait faire des petits.
Et tout ce qu'elle a fait, c'est un beau défunt.
Je m'excuse de te demander pardon, gars, mais dans ces cas-là, on n'adopte pas le style larbin. C'était pas un coup de plumeau que je voulais y donner, de toute manière. EVA Jacques Talest. Après tout, qu'il soit éclabsé de ça, ou d'une infraction du Sidécar, qu'est-ce que ça change? Il n'aurait jamais su ce qui s'est arrivé.
Pendant qu'il débloque comme à l'accoutumée, je fouille sa victime. Je trouve dans les poches du mort un passeport au nom de Hans Burger, 38 ans, sujet allemand de l'Est. Il a sur lui des dollars, des marques, des francs français et un trousseau de clés portant le nom et l'adresse d'une maison de location d'auto. Mais t'as vu qu'il a loué sa tire.
La pêche est bonarde.
Pas mauvaise. Il me désigne le local.
Et qu'est-ce que tu penses de ça, bonhomme?
Rien pour l'instant.
Tu crois que c'est un nain qui crache là?
Il n'existe pas de nain assez petit pour utiliser ces meubles. Le lit fait 30 cm.
Bah alors quoi? Ta vieux roule sur la jante et joue à la poupée?
Qui sait?
Il y a sûrement autre chose. Si qu'elle jouerait à la poupée, tu te figures que ce grand voyou serait venu faire une perquise et que le vieux s'intéresserait à elle?
Ah, en effet, papa, il y a sûrement autre chose.
On explore sa carré.
Puisque nous sommes sur place, oui. Pourtant, j'ai dans l'idée que nous ferons chou blanc.
Ah, dis donc, à propos de chou blanc, on pourrait pas aller casser une graine en sortant d'ici?
Je promets, et nous nous introduisons dans la maison grâce à l'efficacité de mon sésame. Nous explorons minutieusement chaque pièce, ne découvrant rien d'intéressant. Je m'apprête à donner le signal du départ lorsque le gros radine de la cuisine en dévorant un pilon de poulaga.
Eh, viens voir quelque chose de poilant.
Je suis l'anthropophage et il me drive jusqu'au buffet de Formica. D'un côté du meuble, il y a une vaisselle de poupée à l'échelle du mobilier découvert dans la maison sans fenêtre.
Non mais faut le voir pour y croire, hein. Et moi je te dis qu'elle a un petit nain.
Et il s'appellerait Pléonasme, ton petit nain? Beru croque l'os de son pilon, il ressemble à un gros boxeur affamé.
Mais tu couches pour rien dire. Comment est-ce que je connaîtrais son blaze?
Oh, encore une fois, les nains sont pas aussi minuscules. Un nain d'un mètre, voire, à l'extrême rigueur, 80 cm, je dis pas. Mais un nain de 25 cm, c'est pas possible.
Bon.
Allez, on se tire, gros.
Et on laisse des tourbis sur le carreau?
Et tu voudrais t'en faire un dessus de chevillé?
Ce que j'en disais.
Nous retournons à notre chignol. Avant d'y grimper, je m'approche de celle de l'homme. J'y trouve une valise à chat. Elle est carrée, avec des trous percés dans l'une des faces. Emportons-la.
Et pourquoi fiche t'as des greffiers chez toi?
Inspecteur Berrurier. Je déteste la manie que vous avez dergotée lorsque je vous donne un ordre. Tenez-vous-le pour dit.
Commissaire San Antonio, je déteste la manie que vous avez de me prendre pour un paillasson. Tenez-vous-le pour 10 ou pour 20.
Mossad, il empoigne la valise et monte dans la tire. On file Nar Paris. Je largue le gros dans un troquet et je fonce à l'adresse indiquée sur le trousseau de clé de l'estourbie. La préposée de l'office de location de voiture m'accueille avec un sourire commercial. Elle m'apprend que l'auto a été louée il y a 8 jours pour une durée d'un mois par un certain Hans Burger qui a laissé pour adresse celle de l'hôtel Grand Carlos, rue du Faubourg Saint-Antoine. Il était accompagné d'un homme corpulent, beaucoup plus âgé que lui. Il avait la tête rasée, un cou qui faisait des tas de plis et des poils blonds sur le nez. Satisfait par ces renseignements, je sors rejoindre le gros. Celui-ci termine son plat de lentilles, crache la demi-douzaine de petits cailloux que le cuistot a collé dans cette espèce de brouet fluide pour prouver qu'il s'agit bien de lentilles, et déclare qu'il commence à se sentir mieux. Je suis bien aise de l'apprendre.
Le temps de bouffer mon roquefort et mon baba, et je suis à toi.
Rocard à la grande tôle. Moi, je vais faire une petite visite de politesse à l'hôtel du Grand Carlos.
Bah, hein, puisque ça me laisse un peu de répit, je vais commander une blanquette de veau.
Un quart de touristes scandinaves vient d'amener une cinquantaine de vieilles dames jacassantes et le hall du Grand Carlo s'est plein comme un œuf dur. Pourtant, je me décide à aller interviewer l'homme aux clés d'or. Justement, il ressemble à Pierre Franet. Il a fort à faire avec les guides du voyage organisé, débordé jusqu'au menton qu'il est, le pauvre biquet, il m'accueille comme si j'étais un trou dans sa poche.
Oui, à l'instant, pas le temps.
Je lui mets ma carte sous le nez, il y jette un millimètre de regard.
Mais San Antonio, c'est au Texas, vous timbrez à 1,20 francs jusqu'à 20 grammes.
Bah écoute, mon vieux, tu vas mouler 5 minutes tes vikings et me les accorder.
Pardon ?
Harry, il s'appelle Harry, devient gourmet comme un Pierrot gourmand.
Bon, police, t'écrase, je suis plus pressé que tes vieilles perruches.
Bon, enfin, monsieur,
il continue à pas aimer mon véhément langage, le roi des palais.
Écoutez, monsieur,
si tu joues le dégourdi avec moi, tu vas te trouver au chômage avant la fin de la journée. Vu ? Et t'auras des coquards sous les chasses qui te rendront inapte. T'avais comme client un certain Hans Burger ?
Nous l'avons, oui.
Non, vous l'aviez, car il est mort. Et j'ai toujours eu le souci du terme exact, mon pote.
Mort ?
De la tête aux pieds.
Enfin, de quoi ?
Ah, si c'était la typhoïde, je serais pas là. J'ai besoin de certains renseignements à son sujet. Depuis combien de temps il était descendu dans votre gourbi ?
Écoute,
il manque en avaler ses clés.
10 jours.
Il logeait seul ?
Oui.
Des visites ? L'autre hésite. Son rêve, ça serait de m'envoyer au bain turc avec des Grecs.
Oui, oui, je crois.
Quel genre ?
Différentes personnes.
Alors racontez-les-moi.
Vous êtes bon.
Je suis bon avec les gens et avec les pauvres. En acceptant toutefois les pauvres cons. Réponse.
Eh bien, disons qu'il a reçu à plusieurs reprises une jeune femme blonde.
Dans sa chambre ou au salon ?
Je crois qu'il l'a reçue dans ses appartements.
Lesquels se composent d'une chambre ?
Oui.
Alors inutile de rectifier et de vouloir me faire confondre père de famille avec père de chaussettes, hein ? Vous dites qu'il a reçu cette personne à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, disons que madame venait tous les jours.
Non, je pige. Ils paraissaient comment tous les deux ?
Au mieux.
Je pige toujours. La dame est jeune, blonde, roulée comme une déesse avec un regard vert, Nil, qui vous donne envie de visiter l'Égypte, c'est ça ?
Exactement ça, oui.
Et t'as eu l'occasion de connaître son nom ?
Ah, oui, au début, quand elle s'est présentée à l'hôtel, disons qu'elle a dû me le dire.
Ça serait pas Baum ?
Ah non, non, elle a donné un prénom.
Virginie ?
C'est cela.
Il commence à se calmer. Qui d'autre encore il a reçu ?
Ah oui, un gros homme.
Chauve ? Dans le cou fait des plis ?
Ah oui. Grand hôtel Carlos, j'écoute.
Ah, cette phrase, il doit l'avoir en relief sur les muqueuses. Soudain, son visage impavide s'anime.
Un instant, je vais voir.
Il obstrue la partie inférieure de son combiné.
Justement, c'est cette dame qui demande après Monsieur Burger.
Dites quand ce Burger vient d'arriver et passe-moi la communication.
D'accord. Les cabines sont au fond du hall. Prenez la 3.
Je droppe jusqu'à la cabine prescrite. Je décroche et rassemblant les souvenirs, je me compose un accent qui doit ressembler à celui de Feu Burger.
Hallo !
Ce qui ne m'engage que médiocrement sur la voie des responsabilités.
Oh ?
Ya !
Alors ?
Tu vas répondre à une aussi laconique question. Je marche au pifomètre. Tout fa pied !
Tu l'as trouvé ?
Ce tutoiement m'embonit long comme la guerre de 100 ans sur la nature des relations Baum-Hansburger. Oui, chérie, ich !
Merveilleux. Qu'est-ce que je fais de l'autre ? Viens me rejoindre ici, on en discutera.
Tu crois ?
J'aime mieux pas en parler au téléphone.
Tu as une drôle de voix.
Je suis essoufflé. J'arrivais. Dépêche-toi, j'ai d'attends.
Tu m'aimes.
Ich liebe dich.
J'arrive.
Jusque-là, tout a marché comme sur des roulettes. J'espère que mon coup de bluff a réussi et que la môme va pas tarder à se pointer. Sinon, elle a au contraire la puce à l'oreille et elle risque de s'emmener promener. Je retrouve Harry. Refilez-moi la clé de la chambre d'Hansburger. En quelques instants, la dame va arriver. Dites-lui que je l'attends chez moi, vu ? Et surtout, pas de fausses manœuvres. Hein. Il me tend sans causer mot la clé du 718. Arrivé dans ma chambre, j'abigophone à la maison Poulaga et je demande Beru.
Ah, c'est toi ? Mais qu'est-ce que tu maquilles ? Je t'attends.
J'ai du boulot. Alors, tu vas foncer chez Virginia Baum. Hein. Il y aura probablement personne chez elle. Pénètre dans l'appartement d'une manière ou d'une autre. Au besoin, tu t'assures le concours d'un serrurier.
Oh, tu me prends pour une lavage ou quoi ? Moi, un serrurier ? Mais mon pauvre bonhomme, Arsène Lupin, je le prends à 10 serrures de sûreté, je le ridiculise.
Bon, bah bravo, alors fais ce que je t'ai dit, hein. Fouille l'appartement. Peut-être que tu trouveras dans une position plus ou moins fâcheuse Monica Michael. Tu te contenteras de la surveiller et t'attendras mon coup de fil, c'est tout.
Mais ça j'enregistre, mon capitaine. Ah, que je t'annonce, Pinot dort toujours.
T'es certain qu'il est pas mort ?
T'as déjà entendu un mort ronfler comme un...
Je perçois un bruit de moteur à explosion. Eh ben laisse-le finir sa pioncette, c'est bon pour ses pertes de mémoire.
Il va avoir des crochets en se réveillant depuis tant qu'il n'a rien bouffé. Oh, à propos, j'ai pas pris de blanquette à l'ancienne, au restaurant. Elle était tellement ancienne que les gens de la rue entraient pour demander s'il n'y avait pas une rupture de canalisation dans la crèche. J'ai préféré me cogner une escalope milanaise, elle.
Mais j'ai déjà raccroché, et bien m'en prend, car à peine mon tubophone est-il raccroché que la sonnerie se remet à gazouiller. Le portier me dit...
Madame Virginie, monsieur Burger.
Ah non, il est réglo. Il aura le droit à une poignée de pogne du commissaire. Je vais tirer les rideaux afin de plonger la chambre dans une pénombre propice. Ensuite de quoi, j'ouvre en grand les robinets de la salle de bain. Puis je reviens me coller de l'autre côté de la porte. Comme j'achève, on toque to the door. Je réponds rien. Le loquet tourne et Virginie Baume entre dans la pièce. Pendant 3/10 de seconde, je me dis qu'elle va me voir. Mais non. Elle ferme, pousse le verrou et s'avance vers la salle de bain. Elle va pour en ouvrir la porte, se ravise et en moins de temps qu'un éclair de chaleur dans le ciel d'une nuit d'été se déloque. Oh. Les vêtements de deuil gisent sur la moquette. Bing. La bride de soutien-gorge lui bat l'épaule. Flic, floup. L'élastique du slip coquin roule sur ses hanches et ses cuisses. La voilà aussi habillée qu'un œil de veau sur une assiette. D'un plongeon superbe, elle se jette sur le pajot, s'y insinue et tire les couvrantes par-dessus sa tête. Cette petite frangine, vous pouvez m'en croire, elle doit valoir son pesant de cantaride. L'essayer, c'est la doper. Il est temps maintenant que le commissaire se mette en branle. Je m'arrange jusqu'au lit, je m'y assieds. Je coule une main fiévreuse sous les draps, je caresse des trucs dont à la longue et après réflexion, en me référant à mes souvenirs, je pourrais déterminer la nature et la fonction. Madame se trémousse, elle onomatopète, elle interjectionne. Vous parlez d'une centrale électrique miniature. C'est Marcoul à elle toute seule.
Dis-moi que tu m'aimes.
Ah, tu veux que je te le dise pour que ça te fasse le plus d'effet? En français ou en allemand? Alors là, elle atterrit vite fait. La voilà dressée sur un coude, les cheveux en désordre, les yeux exorbités à force de stupeur et d'effroi. Son visage devient livide. Bonjour Nini. Elle me reconnaît, mais dans sa tronche, c'est comme dans un mixé en marche.
Mais vous, Hans, je...
Oh ben vous prenez pas les pieds dans le porte-bagages, Trognon.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle réalise à contre-temps sa nudité et pudiquement remonte le drap sur ses seins. Dommage. Il figurait parmi les plus beaux que j'ai jamais vus.
Je vous reconnais.
M'envoyez flatté.
À Moisson? Loto?
Mais oui!
Vous êtes le romancier.
Exactement! Un romancier qui est avant tout commissaire, belle dame. Cette fois, elle commence à donner une orientation valable à ses esprits désordonnés.
Mais...
Vous avez eu raison de vous mettre à l'aise, ma jolie. On en a long comme un projet de désarmement à se dire.
Où est Hans?
Je le connais pas suffisamment pour vous renseigner. Pourtant, tout m'incite à croire qu'il serait plutôt en enfer.
Qu'est-ce que vous me racontez? Parlez!
Elle s'anime. Laisse retomber le drap, les deux seins ocrés qui lui servent d'enjoliveur à poumons se dressent brusquement et me font les cornes. Je dis que votre ami Hans a eu un gros pépin en perquisitionnant chez Monica. Sa tête est entrée en contact avec un derrière de bouteille. Comme l'inspecteur Berrurier tenait le goulot de la dite bouteille et qu'elle était solide, c'est le crâne de votre copain qui a volé en éclats.
Hans est mort!
Aussi mort que votre mari, oui ma choute. Mais c'est pas une prise de judo qui l'a tué. Oh pardon. L'effet que ça produit sur la madame, les paroles pareilles. Ça vous épate, hein, môme, que j'en sache aussi long.
Vous mentez.
Mais non, j'avance rien que je sois en mesure de prouver.
Vous n'en pouvez rien prouver, vous.
Ah, mais si, je peux prouver. Car le corps de votre cher défunt est dans un tiroir frigorifique.
Mais tout à l'heure, Hans, au téléphone.
Tout à l'heure, au téléphone? Ischlibodisch, ma choute, je reprends l'accent de Burger. Elle abandonne tout espoir.
Oh, c'est pas possible! Pas possible, non!
J'essaie de la calmer en lui caressant tendrement l'épaule, mais ça déplaît à madame qui, à bout de nerfs, me balance une mandale caramélée. J'en ai les gobies qui se décrochent. Arrête ta crise, môme, hein. Sinon je t'administre un calmant qui t'empêchera de t'asseoir les 40 années que tu vas sûrement passer en tôle.
Qu'est-ce que vous dites?
La vérité du bon Dieu. Complicité de meurtre sur la personne de ton mari, sans parler du reste, hein. Tu te figures pas que les jurés vont te voter la croix de guerre avec palme? Et le reste, c'est quelque chose, hein. Je suis d'autant plus sincère dans cette affirmation que j'ignore absolument ce dont il s'agit. Elle est hébétée, la jolie Virginie. Ça, elle me considère mornement. Comme si j'avais pas plus de réalité de présence que la gravure fixée au mur qui illustre la rêverie d'un garçon coiffeur sur le mont chauve. Tout à coup, j'entends l'eau déborder dans la salle de bain. J'ai dû ouvrir les robicots trop en grand. Toujours est-il que ça bouillonne sur le carrelage. Et pas la peine de saccager l'hôtel. Alors je cours pour stopper l'inondation. Je marche dans une immense flaque de flotte, je tourne les robinets, puis je reviens dans la chambre. Mais trop tard. Les rideaux de la croisée grande ouverte flottent à l'extérieur. Je me précipite à la barre d'appui et en bas, il y a une tache claire cernée par un essaim de badauds à vide. Je réprime un petit frisson. La môme a choisi la solution idéale. Seulement elle est morte avant d'avoir parlé. Ça va faire une sacrée bouillabaisse, cette petite aventure. Quelle explication, moi, je vais fournir aux collègues. La vérité est pas croyable. On tambourine à la porte. Je vais ouvrir, c'est plein d'esclaves en gilet qui me demandent si c'est bien ici que... Bah, je réponds que oui, j'aimerais être ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Mais regardez pas avec ces yeux-là, les gars. Il s'agit d'un suicide. La dame a eu une petite crise de conscience, et c'est pour ça qu'elle est allée bouffer le trottoir pendant que j'avais le dos tourné. Les archers se sont pointés. Tout ce qu'il y a de plus incrédule. Ils m'embarquent au commissariat, tout commissaire que je suis. Une fois dans la succursale, vient Poupoule, ça se tasse. Commissaire du quartier est un aminche, iris sous cap pendant que je bigophone mon historiette au vioque qui m'écoute sans piper. Je lui passe mon collègue auquel il demande d'écraser. Motus pour la presse, pas de pub, que tout ça reste entre poulaga. Quand le collègue a donné des assurances, le DAB exige de me parler.
J'aimerais vous voir assez rapidement.
Je passerai à votre bureau. Et dans le secret de mon cœur, je murmure compte dessus et bois le pétrolane que tu devrais te coller sur le dôme. Je quitte le commissariat en me disant qu'il faut attaquer à fond et remporter le morceau avant le coucher du soleil. Je pénètre dans un bar discret. Je bois un scotch et je vais téléphoner au gars Berrurier, lequel moisit en ce moment chez les défunts, boum.
Qui cause ?
Un frisson glacé part de mes talons et remonte à ma nuque en transistant par mon bahut double porte. T'es bourré, gros, hein ?
Qu'est-ce que tu développes, là ? Ouais, mec, je viens de juste de dénicher une bouteille de chartre verte.
Oui ? Et tu viens de la finir ?
Oh, il en manquait pas mal.
T'as retrouvé Monica, Michael ?
Non. Mais comme non, pas de personne.
Et t'as bien regardé partout ?
C'est comme qui dirait, pour ainsi dire, désert de Capsi. Et partout, jusque dans les tiroirs de la pratique, là, de la chasse d'eau, dans les jouetaires, quoi. Ouais. Rien, je te dis, juste un canari, oui. Dans sa merde.
Bon, et ben attends-moi, je m'annonce. Je vais pour raccrocher, mais la voix farineuse du gros m'attrape.
Tu t'annonces apostolique.
L'appartement des beaux m'est dit de grand standing. Le Gravos répond à mon discret coup de sonnette par un tonitruant borborime et vient m'ouvrir. Je suis pas gouré, les gars. Il est bourré comme le métro aux heures de pointe. Son beau costard à rayures est plus racontable. Taché, troué, dépecé, fripé, déformé. C'est maintenant l'épouvantail qu'on a défringué en hâte. Béru a un regard qui lui pèse sur les joues. Tout strié de sang. Sa barbouze a poussé. Dès qu'il est naze, son système pileux en profite pour se développer. Son nez violacé ressemble à une carte des voies navigables, les veines figurant les cours d'eau.
T'as pas mis de longtemps.
Espèce de triste ivrogne, sale poivreau, abruti, horreur animale, déchet d'humanité, reliquat de poubelle, fosse des anges saturées, bout de la nuit, bout de l'ennui, bouddha boudin, boulimique. Imbécile.
Stop. Le reste, je m'en fous, mais imbécile, tu vas retirer ça tout de suite. Moi, je peux pas le permettre, j'ai ma dignité.
Ta dignité, ouais. Épave, ta dignité. Sous-produit, ta dignité trop plein de water, ouais. Tu mériterais que je te demande ta révocation pour t'apprendre ce que c'est que ta dignité. On est aux prises avec la plus mystérieuse des affaires et tout ce que tu trouves à faire, toi, c'est de te saouler bassement, hein ? Et ça, en plein travail ? La réaction se fait. Il va s'appuyer au mur, enfouit sa bouille fanée dans son bras replié tel un écolier puni et éclate en sanglots d'ivrogne.
Tout ça c'est à cause des saucisses de midi qui avaient pas la fraîcheur Colgate. J'étais comme qui dirait barbouillé, ça n'a aussi cassé que j'étais gauchis cette bouteille de chartreuse verte. Je m'ai mis à lui dire deux mots. Et comment mon barbouillage passait toujours pas, mais je m'en suis administré une deuxième dose, puis une troisième, puis ainsi de suite. Et puis que la bouteille a été finie et que je me suis rendu compte que je l'avais vidée.
Mais je n'écoute plus son délire éthylique. Je fouinasse dans le somptueux logement. Je découvre le cabinet du docteur et plusieurs chambres à coucher. Dans celle de madame, deux grosses valises de cuir sont pleines d'effets. Elles annoncent un départ imminent. Je me souviens alors qu'Hansburger me disait être sur le point de quitter la France et je suis prêt à vous parier. Un éléphant blanc contre une souris grise que Virginie devait l'accompagner. Où se rendait-il ? Mystère. Où se trouve Monica Michael ? Autre mystère. Et qu'allait chercher Burger dans la bâtisse de Moisson ? Troisième mystère. Je continue ma petite perquise. Sur la commode de la chambre virginienne, il y a un passeport à son blase. Conclusion, c'est à l'étranger qu'elle allait filer. Le gros chiale plus. La tête dans son bras, il roupille. Debout comme les bourrins, je le pousse et il s'écroule le long de la cloison en poussant un grand coup. Il atterrit sur le carreau du hall. T'as le réveil complètement et ça le dessoule partiellement. Il étanche le raisin qui lui coule du pif.
Quand t'es venu dans cet appartement la première fois, il n'y avait pas de personnel ?
Eh, si. Si. Une boniche. Une sorte d'espèce de petite guenon du genre Ouistiti avec des cheveux coupés courts et un nez que t'aurais dit une framboise. L'air intelligent, à ce qu'il m'a semblé.
Bon. Allez, arrive, ma grosse. Ça le bouleverse, ma brusque douceur. Il y a un élan, me prend par le cou, il m'embrasse.
On dira ce qu'on voudra. À ton caractère, pourtant, t'as pas que des défauts, ça, là.
Mais il a rendu cet hommage et il m'emboîte le pas. La concierge, fait très exceptionnel pour une concierge, est dans sa loge. La pipelette est plutôt jeune, plutôt pas bête et plutôt accueillante. Mme Baume, elle était chez elle tantôt ?
Oh non, la pauvre !
Vous savez où elle se trouvait ?
Bah non.
Vous s'apprêtez à partir en voyage ?
Ouais.
Et pour où ?
À la Suisse. Mais elle a de la famille là-bas. Après son grand malheur, la pauvre, elle avait bien besoin de se changer les idées.
Et quel endroit exactement ?
Oh, ça, je saurais pour vous dire.
Elle a une bonne à tout faire ?
Ouais. Mais elle vient de la congédier. Vous
pourriez me donner le nom et l'adresse de cette fille ? Cerbère stoppe son tricot et me dévisage avec un air d'en avoir autant que moi. C'est-à-dire de...
Mais vous voulez en savoir des choses, vous, alors ?
Je lui produis ma jolie carte professionnelle avec photographie de l'homme et la bande tricolore. Elle renifle.
La police ? Quelque chose tourne pas rond ?
Mme Baume est morte.
Morte ? C'est pas possible.
Admettez que ça figure sérieux, un adjoint qui s'étonne des déclarations de son chef. Ma pipelette est trop commotionnée pour tiquer.
Morte ? Comment ? Et de quoi ?
Suicide. Le chagrin, comprenez-vous ? Elle opine et essuie une larme épaisse comme de la vaseline. Alors, le nom et l'adresse de la soubrette, please.
Marinette Piedplus, 116 rue du Chemin Vert.
Mais, quelle mémoire !
Elle m'a donné le renseignement ce matin pour que je lui fasse suivre son courrier chez elle. Cette petite, elle a des tas d'amoureux, elle reçoit au moins une lettre par jour.
Allez, en route.
Curieux qu'elle ait des coquins avec sa frite. On dirait plutôt qu'elle s'approvisionne aux euros.
C'est Marinette qui nous ouvre. Le gros n'a pas menti, elle ressemble effectivement beaucoup plus à une guenon qu'à Sophia Loren. Elle mesure 1m50 à peine, et ses cheveux roux sartres sont collés sur sa petite tête de pinceau usagée comme une calotte d'enfant de cœur. Elle crèche chez sa vieille maman, une dame blême et rhumatisante qui a eu des malheurs et qui s'en payera encore quelques-uns avant de lâcher la rampe. Je reconnais vaguement la môme pour l'avoir aperçue au columbarium où elle assistait au feu d'artifice de feu son patron.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
La police, ma poulette !
Seigneur Jésus !
Seigneur Jésus !
On peut causer ? Elle se décide à nous faire entrer dans une pièce grande comme une cabine téléphonique. Madame Blême et Blette, Blaise en parlant, est affligée de surcroît d'une blénophtalmie.
Qu'est-ce que vous nous voulez ?
J'ai que menu renseignement, chère madame.
Ma fille a rien volé.
Oh, maman.
Rassurez-vous, rassurez-vous. Nous aimerions seulement savoir où madame Baume devait aller. Possible ou pas possible, miss ? La môme Marinette cligne ses paupières farineuses.
En Suisse ?
À quel endroit ?
Je ne sais pas.
Autre chose, les Baumes. Est-ce qu'il possédait une maison de campagne ?
Non.
Réfléchissez bien, c'est très important. Vous n'avez pas un pied-à-terre quelque part ? Hein ? Un pavillon de chasse, un chalet, une ferme rebectée ? Tout le monde en ce moment a une maison de campagne, non ?
Pas nous !
Et non plus. Le docteur avait horreur de la nature.
Écoutez, mon petit, vous m'avez l'air bougrement éveillé pour votre âge.
Elle a eu son certificat d'études à 18 ans.
Ah, ben ça m'étonne pas, chère madame. On sent tout de suite chez votre enfant la forte personnalité qui s'appuie sur un caractère solide. Hein. C'est pourquoi, mademoiselle, je vais vous poser une question à laquelle je vous demande de réfléchir. Faites abstraction de son aspect insolite. Voilà. Supposons que Mme Baume, pour une raison ou pour une autre, soit dans l'obligation de cacher quelqu'un ou quelque chose en dehors de son appartement, selon vous. Où est-ce qu'elle le mettrait ?
Qu'est-ce qu'elle pourrait bien casser ?
Ah, c'est pas la question, madame. Laissez réfléchir votre ravissante jeune fille. Je vois son visage éveillé qui s'éclaire tandis qu'une intense lueur pétille dans ses yeux.
Elle pourrait bien le cacher dans son laboratoire.
Je tressaille, marchant se faisant sur un pied du
groupe. J'ai mon ongle encarné qui me faisait déjà souffrir.
Mme Baume possède un laboratoire ?
Vous savez qu'elle est docteur aussi.
Je sais, mon trésor.
Pas de familiarité. Ma fille est sérieuse. Elle a été rosière en 1938.
Oh Dieu, mais quel âge qu'a donc-elle ?
46 ans.
Ah, on lui donnerait pas. Comme quoi ces naines, ça trompe leur monde.
Dites donc, malotru.
Bon, il se trouve ce laboratoire.
À Boulogne-Billancourt, rue du Général évacué, 17. J'y suis été pour faire le ménage un jour avec madame.
Oh, je l'embrasserais, moi, cette gosse, si elle avait un peu moins de moustache. Vous connaissez Monica Michael?
C'était la meilleure amie de madame.
Elle venait souvent la voir?
Oui, souvent. Mais madame allait plus souvent chez elle.
Merci, ma ravissante. Elle était à la hauteur des circonstances.
Si on peut dire.
Une minuscule rue tranquille quelque part derrière le Parc des Princes. Le 17 de la rue du Général évacué est une petite construction neuve toute au rez-de-chaussée, avec des fenêtres en forme de hublot. La porte est en bois verni. Deux serrures la ferment. Je les ouvre. Une petite entrée, pourvue d'un vestiaire. Deux portes. L'une donne sur un minuscule bureau moderne sentant bon le neuf. L'autre, sur une vaste pièce encombrée d'éprouvettes, de cornues gentilles, de glodemuches, de sprousses, d'abracadamètres à mercure et de cages pleines de cobayes. Une odeur de soufre et d'urine animale nous accueille.
Ça fouette vachement dans le circus.
Nous avançons le long d'un immense comptoir recouvert d'une plaque de marbre. Soudain, je tombe en arrêt, sans trop me faire de mal, devant une malle d'osier fermée par un cadenas. Un chouette cadenas canadien. À toi de jouer, l'homme au biceps. Pas besoin de lui répéter, Beru empoigne le cadenas, un mouvement de torsion comme pour déchirer un jeu de cartes en deux. Crac, crac, croc, flic, flac. Le couvercle se soulève. Beru riait le fort et met un gargouillis qui ferait crever de jalousie un robinet de vidange.
Mort le contenu.
Monica Michael gît dans le panier. Les jambes repliées, les mains croisées sur le corsage, endormie. Ça chlingue le chloroforme dans la malle.
Et les canis?
Ça m'étonnerait. Elle respire. C'est du grand sommeil à la Pinot. On y a fait renifler de la dorme en bouteille, gros. Portons-la à l'air libre. Nous la coltinons sans la sortir de son panier jusque dans l'entrée. Une fois là, on lui bassine les tempes avec de la tisane bien fraîche puisée au robinet. Effet ne se fait pas attendre.
Que m'est-il arrivé?
La fille Beru qu'elle ne connaît pas, puis elle tourne vers moi son beau visage de vieille morille déshydratée.
Vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Comment vous vous sentez, divine amie?
Mieux. Pouvez-vous m'expliquer?
Ah bah tout ce qu'il y a de volontiers. Virginie vous a vêtement chloroformé, tandis que son camarade Hansburger allait perquisitionner dans votre propriété.
Est-ce possible?
Ah, ben c'est plus que possible, hein, adorable compagne, puisque ça a été réalisé.
Mais comment savez-vous cela?
Parce que je suis commissaire spécial, ma tendre amie. Ça la rend méditative, nous en profitons pour l'extraire de son panier.
Faudrait lui faire boire quelque chose. J'ai remarqué un bistrot pas loin. Faut-il que j'aille chercher un peu de gnôle?
Ce n'est pas drôle.
Le gros se le fait pas dire une fois et demie. Déjà, il a giclé. Voilà seul avec cette honorable dame. Monica, tendre roseau pensant. Savez-vous que vous êtes inculpé de meurtre? De meurtre sur la personne d'Alexandre Boom. Mort d'une prise de judo pas piqué des hannetons. J'ignorais que vous possédiez ces petits talents de société.
C'était pas moi.
Ah, vous aurez de la peine à le faire admettre au juge d'instruction.
C'est Hansburger. Cet homme est terrible. Il fait ce qu'il veut de Virginie. Elle lui obéit aveuglément. Elle sauterait par la fenêtre pour lui.
Intérieurement, ça me dilate la rate. Racontez en détail.
Racontez quoi?
Tout. Depuis A jusqu'à Zitrone. On pourrait même commencer par votre petite maison de moisson, non? Son regard glauque me cloque un point d'interrogation. Elle est en train de se demander si je sais tout ou si je sais pas tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre chronologique des événements. Leur historique, en somme. Car vous venez de vous en rendre compte, je connais l'essentiel, hein? Et s'il laisse prendre à mon petit air de douairière les flagous.
À la mort du professeur Michael, c'est Virginie qui s'est occupée de Puck.
Bon, voilà un nouveau mystère. Qui est Puck? Je me garde bien de lui faire part de mon ignorance.
Elle avait été l'élève de Michael. Elle a su assumer avec beaucoup de dévouement l'entretien de Puck.
Son mari était au courant?
Ah, oui. Et puis un jour, les choses se sont gâtées. Virginie a fait connaissance de ce Hansburger et elle est devenue littéralement folle de lui. J'ai été tout de suite dans la confidence car Virginie ne cachait rien. Burger ne m'était pas sympathique, mais après tout, elle l'aimait. Pourtant, je n'ai pas tardé à voir clair dans son jeu. C'était pas qui l'intéressait, c'était lui qu'il visait, à travers Virginie.
Le gros Sradin portant un verre plein de scotch. Mais t'as vu qu'il a dû s'en envoyer quelques-uns derrière la craftouze.
Hé hey, colle-toi ça dans le cornet, mes mères, ça ramonne les voies respiratoires et ça te débouche l'évier en moins de... de rien.
C'est trop fort. Je n'ai pas l'habitude de le prendre sans eau.
Ravi de l'aubaine, Beru chope le verre et le siffle d'un trait.
La cam pareille, c'est autant dire du petit lait, mémé. La flotte garde-la plutôt pour tes abolitions.
Bon, reprenons. Donc, Hans Burger s'intéressait à Puck.
Bah, indiscutablement.
Qui c'était qu'est-ce ?
Puck, tu sais bien. Il est trop beurré pour saisir les nuances. Les subtilités, c'est pas son boulot.
Comment veux-tu que je suce qui c'est Puck, vu que j'ai jamais connu de mec de ce blaze ?
Bah alors tais-toi.
Faudrait voir un pas trop chahuté de bonhomme devant des méa culpés.
Notre petit duo n'a pas échappé à Monica qui se trouble. Bon, poursuivons. J'ai pas le temps à perdre.
J'ai compris. Kanzberger était un agent secret que Virginie le savait. Mais elle trouvait un certain romantisme à la chose. À partir de ce moment, elle a commencé un traitement particulier sur Puck. Elle le conditionnait en vue d'une importante expérience. Je ne voulais pas, mais elle me tenait. Comprenez-vous ?
Elle vous tenait ?
Enfin, oui.
Poursuivez.
Son mari a fini par s'apercevoir de la situation.
De sa liaison avec Hans Burger.
Oui, et des projets concernant Puck.
N'aurait-il pas été prévenu par une lettre anonyme ? Monica Rossi se trouble.
Cela se peut.
Et alors, le docteur Baum a fait une scène terrible à sa femme, hein ? Il l'a menacé de signaler à la police les agissements de son juge, c'est pas vrai ?
En effet, Virginie a pris peur, elle a prévenu Burger. Elle m'a demandé de réclamer une consultation à Alexandre, ce que j'ai fait, sans comprendre. À peine me suis-je trouvé dans le cabinet que Hans est entré. Le docteur a compris qu'on lui voulait du mal. Il y a eu une brève lutte, mais Burger a fait une prise à Alexandre. Une prise curieuse. Le docteur n'a plus résisté. Lorsque Hans l'a lâché, Alexandre est tombé. Il était mort. Et puis Virginie est arrivée, qui m'a supplié de ne rien dire. Tout ça était un vrai cauchemar. Un cauchemar. Je fais ce qu'ils ont voulu. J'ai dit à l'assistante que le docteur avait eu une crise. Heureusement, un médecin appelé d'urgence a confirmé. Je pensais que...
Que la police ne saurait rien, hein ?
Bah, oui.
Un violent ronflement nous fait sursauter. C'est l'éminent qui en écrase avec application. Ensuite ?
Cette pauvre Virginie. Après l'incinération d'Alexandre, elle était joyeuse, vous entendez ? Joyeuse ! Elle m'a dit que désormais, il serait impossible de prouver quoi que ce soit, qu'elle était libre, qu'elle allait partir pour l'Allemagne de l'Est en compagnie de Hans Burger. Elle voulait emmener Puck avec elle. C'est alors que j'ai refusé. Comprenez, Puck ? Je n'ai que lui au monde. Depuis des années, je m'y suis attaché. On s'attache bien à un chien, à un chat.
Je donnerai tout ce que vous avez sur votre compte en banque pour savoir ce que c'est que ce damné Puck dont elle me rabat les étagères à mes goûts. Ben voyons, vous avez donc dit que vous n'étiez pas d'accord.
Oui. Je lui ai signifié que tout était fini entre nous. Elle s'est mise dans une rage folle. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas aller contre les décisions de Hans, que lui-même avait des comptes à rendre à ses chefs, et que de gré ou de force, elle emmènerait Puck.
Mais alors ?
Je l'ai tenu bon.
Bien qu'elle vous tint. Elle agit de ses ramasse-piettes artificielles.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'elle se résignait à me laisser Puck et que le coup était arrangé vis-à-vis de Hans. Néanmoins, je me suis méfié et j'ai caché Puck.
Vous avez fort bien fait, hein ?
Elle est venue me chercher, la perfide. Elle m'a dit qu'elle avait préparé une série de traitements pour Puck et qu'elle voulait me les remettre pour que je puisse le soigner pendant son absence. Nous sommes donc venus ici.
Un quadrimoteur à réaction cherche son terrain au-dessus de nos têtes. Renseignement pris, il ne s'agit que du gros qui continue d'en concasser comme un sonneur. Et alors, elle vous a chloroformé ?
Je ne me souviens de rien, tout s'est brouillé. Voici toute l'histoire, vous savez tout.
Oh que non, j'ignore ce que vous cachez et qui permettait à ces plaisantins d'avoir barre sur vous. J'ignore également qui est Puck, où vous l'avez mis. Vous voyez, ça fait encore de la conversation en perspective.
Ah, bon.
Mais non, dire madame, je ne sais pas. Alors procédons par ordre, qui est Puck? Eh ben je vous écoute, RS de marbre. Trois messieurs aussi sympas qu'une épidémie de peste bubonique font irruption. Il y a un gros, sanguin et chauve au cou énorme que j'identifie à la seconde même comme étant le chef de feu Hans Burger. Et puis deux ouistiti à figure d'ablette malade qui brandissent l'un et l'autre un pistolet mitrailleur.
Main levée, tout le monde!
Monica Hoquette. Plus maître de moi, je me contente de froncer les sourcils. Cependant, nous élevons nos bras. Beru a le droit à un coup de latte dans les cerceaux.
Et qui c'est-il enviandé qui se permet des principautés avec un inspecteur principal?
Son regard couleur de fausse d'aisance agitée découvre le regard hostile des pistolets braqués sur lui. Le sens de la réalité réintègre son cerveau ramolli.
Je vois, oui. Le chabanet continue.
Les mains en l'air! Nous sommes très pressés. Où est Puck? Allons, vite!
Monica crispe ses lèvres pour bien montrer au monsieur que lorsqu'elle tient le silence entre les dents, il n'est pas aisé de lui faire lâcher. Le Zig en a vu l'autre. Il fait signe à ses troupes aéroportées de nous emmener dans le laboratoire.
Puck! Sinon, les choses vont aller extrêmement mal pour vous.
Monica moufte pas. L'adipeux fait claquer ses doigts. L'un de ses aides sort quelque chose de sa fouille. C'est un rouleau de fil terminé d'un côté par une fiche électrique et de l'autre par une sorte de petite lance métallique. L'affreux branche s'affiche dans l'une des nombreuses prises du labo. Puis darde la lance sur Monica. Et d'un beau vert tirant sur le bleu, la pauvre chérie. Mais elle essaie de faire comme les tonneaux. C'est-à-dire bonne contenance. D'un geste de bretteur, le gros saxophone et pique sa lancette dans le bras de Monica. Elle pousse un cri terrible et s'affaisse. Le tortionnaire retire sa dague.
Parlez!
Un instant, je regarde discrètement autour de moi et j'avise à la portée de mes mains levées un flacon d'acide chlorhydrique.
Parlez! Vous savez qu'il est parfaitement stupide de vous taire.
Sa lancette braquée, il marche à nouveau sur Monica. L'attention de tout le monde est braquée sur elle.
Cette fois-ci, je vous l'enfonce dans l'œil.
Et on ne doute pas de ses promesses. Ma main droite, pendant ce temps, a saisi le flacon d'acide et le débouche avec une infinie lenteur.
Décidez-vous, pour la dernière fois.
Je l'ai mis dans la barque de plaisance que je possède. Et qui est amarré sur la Seine.
Et le nom de cette barque?
L'Azur. Elle est peinte en bleu et blanc. Puck se trouve dans une petite cage.
Ça y est, je l'ai en main, le flacon débouché. Maintenant, il s'agit de ne pas rater l'opération et de bien calculer les angles. Mon geste, j'ai pas à le décider, ma brave main droite l'accomplit toute seule, comme une grande. Il y a un jet jaunâtre. Une giclée d'acide arrive en plein dans la bouille du gars. Il pousse un hurlement de démon et lâchant sa pétoire se pétrit le visage en hurlant. Le gros type se tourne vers moi et morfle une seconde distribution de pisse d'armes. Ah, ça fait plaisir de le voir se trémousser en poussant des clameurs d'orfèvre. Il me reste plus de lotion démaquillante dans le flacon pour le troisième. Je le regrette d'autant plus que cet enviandé balance le potage à tout va. Je fais un saut de carpe. C'est ma petite amie Monica qui ramasse la fringuée dans son corsage. Elle tousse un coup et oh, elle s'écroule à la renverse au milieu des flacons. Son sang glougloute. Quelqu'un dont à propos duquel je n'ai pas eu le temps de causer, c'est Beru. L'odeur de la poudre et la frénésie de l'action agissent sur sa forte personnalité. Et il est d'autant plus furieux que le Gravos qu'une volée de balles vient de perforer un pan de sa veste de haut en bas. Et plus question de stoppage maintenant. Le costard du jour, c'est dans la poubelle du coin qu'il va finir son éphémère carrière. Pas vers Jaul, complet à barreau, hein. Le gros plonge, arrache le pistolet vide des mains du tireur et lui fracasse le bol d'un terrible coup de crosse. Parlez d'une corrida. Tandis que le Beru bien-aimé, bien apprécié et vigoureux, décapsule le second tirailleur, le gros type et son premier sbire continuent de hurler et de se masser la vitrine. Beru ramasse le premier pistolet gisant à terre. Et ce dieu mince qui se connaît plus des fourrailles tant que ça peut sur les deux vitriolos en les traitant de non-barbares. Il leur pardonne pas de nous avoir contraints à lever les bras. Il déteste les mystifications, le Beru. La dignité de la police pour lui, c'est sacré. On chahute pas avec ces choses-là. Arrête, gros, nom de Dieu. Qu'est-ce qui te prend de jouer à la Saint-Barthélemy?
Il y a légitime défense! Mais, mort ma veste, gars. C'est la preuve par 69, non? Du fil à fil, mad en un glande. Un costard que même les plus grosses vedettes d'Hollywood n'ont jamais eu le pareil. Tu peux les prendre tous? Frank Sinapisme? Brut Lancastre? Bralon Mado? Georges Venn? Georges Raff? J'aime le Steward et qu'on sort jamais! T'as vu un complet comme voilà sur leur dos? Jamais!
Mais calme-toi, Alexandre Benoît. Pour ces messieurs-dames, c'est un complet de sapin que le tailleur va exécuter. Hein. Tandis qu'en cherchant chez les spécialistes du tissu d'ameublement, tu dois trouver un produit de remplacement intéressant, quelque chose qui représenterait une chasse à cour, par exemple, ou des feuilles de philodendron sur fond d'azur.
Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on branle ?
On tue bon vieux pour qu'il fasse ramasser les décombres et on va récupérer Puck.
Mais qu'est-ce que ça peut être, Puck ? Tu dis Puck, lui Puck. Il n'avait que ce truc-là en tête tous.
Ça les a tués. La barque de feu Monica Michael est amarrée à un ponton privé. Je saute à l'intérieur de l'embarcation, berrue limite, ce qui manque de provoquer un naufrage.
Et où se quitter ce Puck ?
Je bigle autour de moi. Rien. Je mate sous le pontage, belle peau. Rien non plus sous les bancs.
Elle nous a tous fabriqués. Si au moins elle n'avait pas morflé sur le chargeur dans le soutien-gorge, on pourrait espérer apprendre la vérité. Et maintenant, à moins qu'on lui cause mon intermédiaire d'un guéridon, c'est scié.
Ouais, c'est raté. Tant pis.
Rentrons, je commence à avoir faim.
Il met le pied sur le pontage de barque et va pour poser l'autre sur l'embarque à l'air. Mais dans le mouvement, la barque tire sur sa chaîne, si bien que sa majesté met son autre pinceau dans le vide. Comme le vide n'a pas suffisamment de consistance pour soutenir son imposante académie, Duchnok part en avant. Son menton pète sur le bord du ponton. Le dentier du gros est expulsé et reste sur les lattes de bois. Assez anachronique dans sa solitude, je dois le reconnaître. Beru, étourdi par le choc, part dans la sauce. Son bitos ravagé s'en va au fil de l'eau, tandis que la tête valeureuse qu'il portait coule à pic. Je pose ma veste vite fait sur le gaz et je plonge à la recherche de l'empaillé de frais. Il s'ébroue lamentablement dans l'eau riche en mazout de la Seine. Le déplacement de bail est celui d'une centrale électrique. Pour se saisir de lui, il faut se frayer un chemin à travers ses moulinets. Sous l'eau, je lui tire en rampon aux princesses sur la nuque, dans la plus pure tradition de repêchage de noyés. Il est out. Mais dans le mouvement qu'aperçois-je dans la flotte, attaché à un anneau extérieur de la barque, un panier. Je remonte du lard à bord, je lui fais cracher cette mauvaise eau et il rouvre ses beaux yeux bulbeux. Il n'avait pas bu d'eau depuis l'année où s'étant trompé, il avait avalé une gorgée d'eau de Vichy en croyant qu'il s'agissait d'eau de vie tout court. Il fait un bruit de pédalo en recrachant sa tisane, le pauvre cher Gorille. Enfin, ça va mieux.
J'ai resté la marche.
J'ai vu,
oui. Il m'a rafelé, replonge comme les dominos ont coulé à pic. C'est un damier tout neuf que j'avais, tout en porcelaine de Limoges.
Bah te fais pas d'entorse à la cervelle, gros, il est sur le ponton, ton casse-noisette. Mais abandonnant mon coéquipier pour un temps très bref, je hisse le panier immergé. Il est plutôt lourd. Un cadenas ferme le couvercle. C'est la journée qui veut ça, décidément. J'ai aucune peine à le démanteler.
Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Puck.
Ça serait donc un poisson ?
Il regarde à l'intérieur, ses yeux deviennent fixes, et il s'évanouit.
Oh !
Je me penche à mon tour sur le panier. Pendant 10 secondes, je refuse la réalité. Ensuite de quoi ? Je me précipite à bâbord et je me mets à vomir au fil du courant.
Deux plombes plus tard, il y a réunion générale à la morgue de la maison Bourmaine. Sont présents le vieux, le chef du labo, Berrurier et le gars moi-même, fils unique et préféré de Félicie. Nous sommes penchés sur le minuscule cadavre d'un homme mesurant une 20aine de centimètres. Puck. Car Puck était un homme authentique. Merveilleusement proportionné, dû, c'est mon pape du labo qui nous l'apprend, au génie du professeur Michael, le fameux biologiste. La mort du professeur a interrompu ses travaux avant que ceux-ci fussent connus. L'existence de Puck, cette infernale création, a donc été gardée secrète. Le vieux m'explique que les agents étrangers qui voulaient se l'approprier le destinaient à des expériences spatiales. Vous vous rendez compte ? D'un pilote idéal pour des fusées interplanétaires. Un pilote qui peut faire dodo dans une boîte à chaussures et qui pèse 3 kilos. C'est formidable, non ? Virginie le conditionnait progressivement. D'où le minuscule gymnase découvert dans ses appartements lilliputiens.
Dommage qu'il ait péri.
Un monstre n'a pas sa place parmi nous. Tout est bien ainsi. Je me demande ce qui lui est arrivé.
Ah, je crois comprendre, patron. Monica avait placé le panier sur un banc de la barque en prenant soin de l'attacher à un anneau. Mais les femmes n'ont pas de jugeote, hein ? Elle aurait dû l'attacher au fond. Le petit homme a voulu sortir de sa prison d'osier et a fait basculer le panier en se démenant.
Dieu l'a voulu ainsi. J'ai à vous parler, San Antonio. Jusqu'ici, vous ne m'avez jamais menti. Pourquoi m'avoir dit que vous aviez été l'amant de Monica Michael ?
Mais... Il m'impose un silence d'un geste. Puis d'un autre, il tire le tiroir contenant les restes de Monica Michael.
Regardez.
Je regarde. Et pour la deuxième fois de la journée, une nausée me noue les tripes et le gosier. Monica Michael est un homme.
Le mot « amant » possède une signification très précise, mon cher. Une autre fois, ne vous contentez pas d'à peu près.
Je rejoins Beru.
Il me désigne tous les morts entassés dans le macabre local.
Tu parles d'une affaire saignante. Ça a été un vrai gala, hein, gars.
Nous remontons dans le burlingue. Je suis triste, d'une tristesse à la fois viscérale et métaphysique. Cette histoire de petit bonhomme surnaturel mort bêtement après avoir allumé tant de louches convoitises me hante. Je vais avoir du mal à récupérer. Dans le bureau, Pino se réveille. Il s'étire, bâille et nous considère aimablement.
Hey, ma parole, j'ai dû piquer un petit somme.
Avec la drogue que t'as avalée, c'est normal.
Quelle drogue ?
Il va falloir qu'il change de potion ou de médecin. J'ai aidé que sa matière grise continue de faire des bulles.